Si un jour je finis Paper Mario, je pourrais en parler éventuellement. Je sais pas si tu l'as
Oui, c'est
fini ou
vrai,
pas,
tu
mais.
m'avais dit ça.
Lequel?
C'est vrai, je te dis ça. Le dernier qui est sorti sur
Oui.
la Switch.
Tu l'aimes?
Ouais, je l'ai, puis j'avais commencé à y jouer, puis.
Et tu
Puis.
l'apprécies?
Ouais, je le trouve vraiment
Oui.
bien, c'est juste que. Bah, on a juste une vie.
Ouais, c'est ça. Bah ouais. C'est sûr.
Ouais. Apparemment, j'ai décidé de passer la mienne à jouer à Spelunky 2 et à Splatoon. Donc voilà.
Nous sommes le jeudi 12 novembre 2020. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 298. Je suis Narf.
Je suis Blob.
Je suis Anne-Marie.
Et je suis Leslie.
Oh oui!
Ouais!
Yes!
On est vraiment troll de pas avertir les gens en avance, pareil.
J'oublie tout le temps d'avertir les invités.
Je m'auto présente.
Mais non, c'est
J'étais
parfait.
comme. J'étais comme. Puis là, ça rajoute une tension dramatique parce que là, je suis comme. Oh non, j'ai oublié de l'avertir. Puis j'ai fait la même erreur avec JF la semaine passée. Fait
Il l'a eu
que.
aussi, je pense.
Il l'a eu aussi, mais t'as la même. Tu vois
Le grill.
la terreur dans les yeux de la personne qui est comme genre. Tu à moi? Faut-tu que je dise quelque chose? Est-ce qu'ils m'attendent? Puis nous, on est toutes là comme. Vas-y! On te l'a pas dit! Oui, donc, Leslie est avec nous ce soir. Leslie, t'es venue. Ah, j'ai oublié de regarder c'était quand la dernière fois. Ça fait très longtemps.
Du coup, il y a un moment, on va dire, ouais.
Il y a plusieurs années.
Plusieurs
Je
années.
pense que ça faisait. Je pense qu'on avait conclu 4 ans quand on s'est parlé l'autre semaine. Fait que
Ça
il y
fait du
avait.
sens.
Il y avait The Witness. T'étais venu pour nous parler de The Witness. Je pense que c'est toi qui m'avais convaincu de jouer à The Witness.
Ça, The Witness qui est un de mes jeux préférés ever. J'étais venue pour en parler avec de la passion dans mes yeux, dans ma voix, puis j'ai eu une coupure de courant, et finalement
Ben
j'ai
oui.
parlé que genre quelques minutes, puis c'était ça s'est arrêté là, mais c'était sympa.
Ça m'avait
Oui. Je
vraiment
suis
donné
là.
envie de jouer. C'était le 6 mars 2016.
My God.
Ça fait
4 ans et demi.
effectivement 4 ans.
4 ans. Ouais, et demi.
Wow. Et
Mais je suis
puis.
contente que ça t'ait donné envie de
Oui.
jouer, par contre,
J'ai
ça
trouvé ça
j'ai.
super tough. Je me disais, waouh, Leslie, c'est vraiment un génie. Est-ce que je t'ai mis 16 heures? Malheureusement, j'ai pas persévéré, puis il faudrait juste vraiment que je recommence, puis que je persévère, puis que je prenne le temps, là. Ouais. Parce que
Moi,
c'est un
j'avais
bon
là.
jeu.
Mais c'était trop dur. À un moment donné, j'étais. Toi, tu l'avais fini au complet, Leslie?
Ouais, j'ai vraiment
C'est fou,
accroché
hein?
sur ce jeu, fait que j'ai fini avec la fin classique, puis après j'étais là genre, c'est pas possible, il y a forcément plus, et oui, il y avait plus, et
Oh
c'est un des seuls jeux où j'ai réussi à persévérer au-delà de la fin vanilla sans regarder les spoilers sur Internet, ce que je fais de nos jours. 4 ans plus tard, j'ai plus la même persévérance.
mais il faut pas. Ben, peut-être pour trouver les fins, c'est différent, là, mais je sais que j'avais lu que ça sert à rien de se spoiler sur les puzzles dans The Witness parce que si tu vas chercher une solution, ça veut dire que t'as pas compris puis tu pourras pas continuer. Donc
Exactement,
la
ouais.
compréhension est vraiment, vraiment importante.
Ouais, c'est pour ça que c'était un bon jeu pour pas faire ça, justement.
Mon prof de maths, il nous disait toujours de. Il nous donnait le corrigé, puis il nous disait, mais là, utilisez pas le corrigé pour juste copier les réponses.
Non, c'est ça. Ça sert à rien.
Fait qu'évidemment, je copiais les réponses dans le corrigé. Oh là là. Et donc, c'est pour ça que je suis nul en maths et que je suis pas bon à The Witness. Mais.
The Witness, tout ce temps après, s'il y a un conseil que je pourrais donner, c'est que si t'arrives pas à une énigme en un puzzle, en toute logique, t'as dû rater le tutoriel parce que ils ont toutes des tutoriels vraiment bien faits. Puis ça, c'est le truc que j'aurais dû faire mais que je savais pas. Des fois, je m'obstinais en me disant non, non, je peux trouver. Puis ça a pris des heures. Puis des fois, tu trouves, mais par hasard. Puis du coup, t'essaies de reverse engineer pourquoi ça marchait, puis tu finis par trouver. Puis beaucoup plus tard dans le jeu, tu vois le même puzzle, mais beaucoup plus simple, avec un carré, une grille de 2 par 2 au lieu d'une grille de 10 par 10. C'était là. J'aurais dû commencer par celui-là.
Ouais, c'est ça. Mais le jeu, il t'indique pas non plus...
Non, c'est tout le principe du jeu. Et du coup, des fois... Oui, du coup, des fois, tu peux peut-être être sur le premier des tutoriels et tu t'en rends juste pas compte parce que c'est difficile quand même. Et si tu trouves ça difficile, bah... tant pis. Parce que c'est difficile. C'est un jeu très difficile.
Je pense que c'était ça mon problème. Moi, j'avais bloqué dans la chambre avec les fleurs. Je me souviens qu'il y avait comme une serre avec plein de fleurs, puis là, il commence à jouer avec les couleurs, puis les transparences de couleurs, puis j'étais comme « Oh, mais non, mais non, mais non, mais là! » Puis comme, même après avoir compris, c'était quand même tough. J'étais comme « Bon, mais là... » Ouais. Fait que j'avais comme involontairement abandonné. J'avais comme fait « Oh, je vais prendre une pause, puis je suis jamais revenu. »
Ouais, ça, c'est ce que j'ai fait aussi.
Ouais, même chose. Mais c'était pas au même endroit, là. Je me souviens plus où j'ai arrêté, mais j'avais l'impression comme que je devais approcher genre de la fin, mais partout où j'allais, j'arrivais pas à continuer.
Oui, il y avait une des mécaniques que j'avais pas compris. Je pense qu'il y a comme 6 tutoriels avec des mécaniques différentes. Je pense que la dernière, là, j'étais pas capable de genre wrap my head around, comme ça cliquait juste pas. Fait que là, ça m'avait découragé un peu parce que je me disais comme je vais bloquer dans tous les puzzles qui impliquent cette mécanique-là. Fait que là, j'étais stressée. Ouais. Je pense à des petites étoiles dans les carrés, quelque chose du genre.
Ah oui, my god, celle-là. Ouais.
Bref, fait que, de quoi qu'on jase aujourd'hui à part de Witness?
Fait que là, à soir, moi, initialement, j'avais invité Leslie parce qu'elle m'a écrit l'autre jour dans le chat qu'elle jouait beaucoup à Spelunky 2. J'étais comme « Ah, oh, c'est une belle occasion! » Sauf que là, t'as aussi écrit que tu voulais parler de Ohokum, que moi, j'avais beaucoup aimé dans le temps. Et on va peut-être parler de l'actualité parce que là, Céleste... On a joué à Céleste. Moi, j'ai joué comme 5 minutes, fait que ça compte pas.
Moi aussi, je me suis cassé dans le deuxième niveau. Puis j'ai fait... Ah,
je pense que j'ai même pas fini le tutoriel.
Je pense pas que je l'ai acheté encore. Pourtant, ça semblerait mon genre de jeu, j'imagine. J'aime les jeux d'action, normalement.
T'es sûr que tu l'as pas eu gratuit dans un des nombreuses...
Ça m'étonnerait.
Moi, je l'ai eu gratuit sur Epic Game Store.
Fait qu'on pourrait parler de tout ça... par quoi qu'on commence? Ouais, on commence par Spelunky, là.
J'ai joué beaucoup au 1, fait que c'est sûr que je suis curieux de savoir ce qu'il y a comme matériel dans le 2. J'ai vu qu'il y avait des niveaux qui étaient vraiment semblables. Il y en a qui sont complètement nouveaux aussi. Puis on peut se promener sur des dindes, apparemment.
Ouais, ça c'est le plus fun.
Nice!
Bon, alors, sans introduction, parle-nous de se promener sur des dindes.
Parce que c'est l'action de grâce bientôt aux US.
C'est d'actualité, c'est parfait.
C'est ça pour ça qu'il y a des dindes? C'est comme un événement?
Je pense que c'est Black Friday demain, genre.
Non, mais c'est déjà là à la sortie du jeu. Là. Je pense pas que ça a rapport avec
l'action de grâce.
Ouais. Non. Mais le jeu est sorti au Canada pas très loin. Enfin, quand c'était pas très loin de l'action de grâce au Canada, donc ça tombait super bien. On y a joué justement pour l'action de grâce. C'était bien le fun. On tire des dindes virtuelles. Clairement, la meilleure addition dans Spelunky 2, c'est les dindes.
Nous, dans le temps, il y a très très longtemps, dans une ancienne vie du podcast, Gab et Louis nous parlaient beaucoup de Spelunky. Les deux avaient joué énormément. Même au le vieux, là, comme l'ancêtre de Spelunky, c'était celui sur PC qui était gratuit, qui était comme un démo. Ben, pas un démo, c'était quand même le
un
jeu.
Un prototype, disons.
Ben, c'était un jeu qui était
mais
sorti.
Vraiment soigné.
Je sais pas si c'était un prototype. Ils ont sorti un jeu gratuit, puis là, ben, ils en ont fait une version console après. Fait que, ouais, c'était Spelunky.
Ouais, c'est ça, le tout premier, je sais pas comment il s'appelle, mais c'était avec des sprites en pixel art, là.
Ouais.
Puis dans Spelunky 2, un des skins que tu peux débloquer, c'est ce sprite-là du premier personnage. C'est drôle parce qu'il a vraiment pas rapport avec le reste du style du jeu, mais il y a tous les bruitages du tout premier Spelunky. Puis moi, personnellement, j'ai jamais joué à Spelunky le tout premier, et c'est quand même un espèce de de mythes, là, Spelunky, les gens qui y ont joué, ils jouent depuis 10 ans, là.
Oui.
Ce sont des fans hardcore. Puis moi, j'ai voulu essayer un peu, parce que ça, ma blonde, est très... justement, elle était un peu fan hardcore de Spelunky 1. On a essayé de jouer ensemble un petit peu, deux, trois fois, parce que je me disais, bah, allez, ça a l'air fun, essayons. Puis c'était beaucoup trop dur, j'ai vraiment juste pas... Non.
C'est une bonne façon de tester un couple, non?
Ouais. mais c'est ça, ça avait l'air sympa, mais j'appréciais la regarder jouer. Je trouvais que le jeu était agréable à regarder parce que la randomness des niveaux, là, la façon dont les niveaux sont faits aléatoirement est toujours super sympa. Puis je sais pas, c'est le parfait exemple du jeu pour montrer c'est quoi la différence entre eux. Je sais plus ce que je veux dire, quelque chose. J'avais une image, mais c'est parti. En tout cas, c'est une recette simple, mais qui donne plein de résultats complexes et différents. Puis il y a toujours 50 000 façons de mourir. C'est toujours inattendu la façon dont tu meurs. Et c'est toujours violent.
L'anticipation des pièges, puis tout ça. Mm-hmm. Moi, je me souviens, c'était ça. Là. Parce que comme moi, quand je jouais à Spelunky, le vieux, puis après ça, la version console, quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui se rendaient comme au deuxième puis au troisième niveau, puis là, j'ai vu qu'il y avait d'autres mondes, comme tu pouvais aller comme dans une espèce de forêt. Moi, j'avais jamais vu la forêt. J'étais comme, moi, Spelunky, c'est toujours la même chose. J'avais joué quand même beaucoup, mais pas beaucoup, beaucoup, là, mais tu sais, j'avais, tu sais, pour mon niveau de beaucoup. Puis, ouais, c'était tough.
C'est ça, j'avais jamais passé la forêt non plus, enfin la jungle du coup, dans le 1. Et souvent, t'as trois niveaux de grotte, puis après, t'as trois niveaux de jungle, ou quatre, je sais plus.
Puis, ouais, moi, j'ai jamais vu ça.
Puis, ça s'appelle les changements avec Spelunky 2, ben justement, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'ils ont vraiment beaucoup gardé la même recette que le 1. C'est parce que c'était un jeu qui était très apprécié tel quel. Je trouve que c'est intéressant de voir des jeux comme ça où le gameplay a vraiment pratiquement pas été touché. Le core du jeu a pas trop été touché, mais il y a eu des additions qui sont assez intéressantes. Les gens qui jouaient beaucoup à Spelunky 1 depuis super longtemps, finalement, faisaient toujours le même suite d'actions pour arriver à la fin optimale. Par exemple, t'as un vendeur, tu peux décider d'acheter ses items ou de le tuer, puis après t'auras un vendeur pas content dans les prochains niveaux qui essaiera de te tuer, puis ça rend le jeu plus compliqué. Mais tu sais, si t'as suffisamment de skills, tu vas faire ça à chaque fois parce que ça te permet d'avoir le plus d'items possible. Il faut juste être arrivé à pas te faire tuer. Dans Spelunky 2, ils ont un peu rebalancé tout ça, justement, où t'as plus de différents choix d'actions que tu peux faire qui vont avoir des conséquences à long terme, en fait, qui vont changer. Plus longtemps plus t'arrives loin dans les niveaux, plus les actions que t'as faites au premier niveau vont avoir des répercussions différentes. Et ils ont ajouté aussi un système de choix. À la fin de la première série de niveaux, donc de la grotte, tu peux avoir le choix d'aller soit dans la jungle, et donc c'est un peu comme Spelunky 1, soit dans le volcan. Et là, c'est du coup tout un truc différent. Puis dans le volcan, tu vas avoir un personnage que tu peux libérer d'une prison, que tu vas retrouver dans le niveau suivant. Alors que dans la jungle, tu vas avoir d'autres personnages à libérer d'autres prisons que tu vas pouvoir retrouver. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages secondaires qui ont comme ça des mini-quests. Puis j'ai pas du tout regardé de spoilers sur internet, donc il y a plein encore de personnages dont je sais pas quelle est leur succession d'actions vers où ça peut mener comme quête. Et encore, il y a quelques jours, on a découvert, du coup, on y joue beaucoup avec ma blonde, on a découvert un nouveau item dans le journal des items que tu peux débloquer. Puis, c'est des grands moments de Spelunky où t'es genre, oh mon dieu, j'avais raison d'essayer cette séquence d'action, genre 25 fois de suite, parce que ça a fini par déboucher sur quelque chose.
Est-ce que tu as réussi à te rendre à comme la fin?
Oui.
Oh, wow.
Alors, c'est peut-être l'élément le plus important pour moi, en tout cas, la différence entre Spelunky 1 et 2, c'est que je trouve qu'il y a eu des tout petits tweaks sur le game feel et la physique est légèrement différente. Les personnages sont un peu plus bouncy, un peu moins tiki, là, je sais pas comment dire ça. Ils ont l'air presque un peu moins lourds. C'est presque un peu plus comme un Mario, tu sais, ou disons comme un Mario moderne versus un Mario classique où c'était juste justement un Mario classique, c'est le personnage glisse vachement, il y a beaucoup de momentum là. Un Mario moderne est un peu plus, je sais pas, réactif au bouton et du coup en fait j'ai vraiment pris le coup avec ce jeu-là alors que le 1 j'ai jamais réussi à, je sais pas, j'étais frustrée.
Fait que là. Là, j'espère que tout le monde est en train de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe, là. Fait que, il y a Spelunky, qu'on est tous incapables de se rendre plus loin que, genre, le quatrième niveau, mais Leslie, elle a fini. Il y avait The Witness, qu'on était tous incapables de se rendre à plus loin que la moitié du jeu, Leslie, elle a fini. Fait que je suis comme... Oh shit! On a juste une vie! Le podcast, on vient de se faire voler notre cred! Nos gamer cards!
Ça fait du bien d'avoir quelqu'un! Ça fait du bien d'avoir quelqu'un au podcast qui, genre, n'est pas trop pourri!
Wow! Hey, on vient de se faire bien! Félicitations! On devrait t'inviter plus souvent!
Non, en vrai, ça prend juste quelques jeux et puis tu passes toutes tes heures sur ces que quelques jeux, puis c'est ça le problème, c'est qu'après, il y a plein de jeux que j'ai pas fini et que j'ai pas touché.
J'ai aucune persévérance. Je pense qu'il y en a non plus.
Ben, j'ai mis des milliers d'heures dans Heroes of the Storm, I guess que ça compte.
Oui, ben oui, ça compte.
Il est probablement capable de tous nous battre.
Mais là, ça dépend, là, si je me mets en... Si je pogne une équipe de noobs,
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux la salière?
C'est sûr que si tu pognes une équipe de noobs, c'est certainement pas de ta faute.
Ah là, j'aurais gagné, mais j'étais avec des noobs.
T'avais juste les carry comme il faut, comme tout le monde.
Oh my god, non. Tu me dis ça, puis là, j'ai du PTSD, je pense.
T'as mal au cœur.
Il se déclenche comme « Oh non! » Je pense que je suis bien d'avoir arrêté de jouer à Heroes of the Storm.
Puis, je comprends le sentiment. Des fois, tu joues à un jeu, puis t'es même pas si exigeant que ça. Tu veux juste que tes teammates soient pas trop dans les jambes, qui essaient juste un petit peu. Des fois, il y a des gens qui font n'importe quoi. Ah, c'est pas très grave.
Des fois, t'as envie de leur dire avec le plus grande diplomatie, genre comme « Hey, team, have you considered, I don't know, sucking less? » Not sucking! Sauf que là, si t'écris ça, là, c'est fini. Là, ils vont juste passer tout le reste de la game à écrire des insultes dans le chat. Puis, ben là, c'est sûr que t'as perdu.
Mais dépendamment du jeu, il y a beaucoup de gens qui regardent pas les chats, puis les emotes, puis ces affaires-là. Fait. Ça donne rien.
Mais là, on n'est pas là pour parler de Heroes of the Storm.
Ça fait longtemps. Moi, c'était dans Monster Hunter que je voyais ça. Là. Des fois, je disais aux gens, mais tu sais, genre, tape la queue, s'il te plaît. Tout le monde a des épées, là. Tapez la queue, moi, j'en ai pas. Coupez-la. Personne ne faisait. Personne lisait le chat. C'est ça leur job, mais... Ouais.
Mais tu sais, je pense que c'est le secret de ma réussite. Le secret de ma réussite, c'est que je joue avec ma partenaire. Ça aide beaucoup, qui joue depuis bien plus longtemps que moi. Puis surtout, en fait, ça fait un deuxième cerveau qui voit les choses différemment. Puis ça, on s'aide un peu mutuellement. Genre de Witness, je suis pas sûr où est-ce que j'aurais réussi à me rendre sans me frustrer si j'étais toute seule, mais avoir quelqu'un d'autre qui pense différemment avec toi, ça reset. Puis un peu pareil pour Spelunky, là ça prend un peu moins de cognitive ouais de je sais pas, de réflexion de puzzle, mais ça prend du, comment dire, de la confiance en fait, de voir que quelqu'un que tu connais, qui est assis à côté de toi, arrive à le faire. Moi, ça me donne envie, ça me fait me dire sais, moi aussi, je peux le faire. Puis, c'est de la compétition saine.
Il faut développer des bons réflexes dans Spelunky aussi. Là. Ça peut être juste de grimper délicatement les rebords pour tomber de moins haut, de s'emmener une petite souris pour s'il y avait une flèche, la souris va absorber la flèche, mais c'est pas tout le monde qui sait ça. Faut que tu fasses attention si tu veux battre des ennemis avec ton fouet, de pas taper ton ami, puis ton ami tombe dans des pics ou quelque chose. Fait que c'est pour ça que ça teste bien un couple. Là. Comme bon, tu m'as encore tué. Bravo.
On a eu des belles morts. On s'est tué accidentellement ou moins accidentellement et c'était ouais, ça teste un couple. Hein.
Wow.
Tu sais, genre, quand l'autre, il a un gun, puis t'es là, genre, OK, je passe devant, me shoot pas.
Hein. Oh non.
Oups. Squeeze.
Un bouton, c'est si vite pressé.
Oups. Mais c'est surtout que... Il me semble que c'est genre one hit kill dans Spelunky.
Non. Peu... Pas vraiment. Mais d'où les... Ouais, t'as trois vies, mais t'as beaucoup d'affaires qui te tuent one shot. Mais t'as les dindes, maintenant. Qui te redonne de la vie si t'arrives à les cuire. Qu'avant, pour récupérer de la vie, c'était vraiment tough. Fallait sauver un damsel, là, que t'avais le choix. Dans le jeu original, c'était une demoiselle. Puis quand ils ont refait, du coup, Spelunky 1, et t'avais le choix dans les settings entre une demoiselle, un demoiseau ou un chien. Puis maintenant, dans Spelunky 2, c'est soit un chien, soit un chat, soit un chinchilla.
Oh!
Oh.
Les mœurs ont évolué.
Oh! Ouais, c'est vrai, j'avais, me semble, j'avais entendu. C'était quoi déjà la controverse qu'il y avait eu à faire de la... Ben, j'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont changé. Il n'y avait pas de quoi avec la fille en détresse. Ça devait être le trope.
Ben, c'est ça, c'était que... Ouais. Je crois que ça, Anita Sarkeesian en avait parlé dans les vidéos sur les tropes, là, que justement, c'était personne qui a créé le jeu s'est pas rendu compte que c'était un trope pas très cool de mettre juste une femme à sauver en détresse, et que du coup, le easy fix, c'était de remplacer ça par un chien, puis t'es là, quand.
Ouais,
c'est mieux, mais.
c'est un peu intense.
Un chinchilla, j'aime pas ça parce que c'est vraiment helpless, un chinchilla.
Ben, le chien, c'est un pug, fait que c'est pas mal. En fait, il a les yeux vraiment sur le côté, là, okay. Puis.
Ça arrangera pas.
Il a l'air triste, là.
Tu l'entends chialer en plus.
Oh non!
Et tu le cherches.
Au vrai?
Oui, il fait à peu près ce son-là.
Ouais, c'est pas mal ce son-là, là. C'est assez.
C'est très drôle.
Le chinchilla, il fait quoi comme son?
Il fait.
Ouais.
Oh! Ça sonnait super authentique. Mais le truc avec les damsels, c'est que tu peux faire des trucs vraiment intenses, genre les sacrifier sur un autel puis ils explosent en sang pour te donner des récompenses. Fait que c'est sûr que quand tu fais ça avec des humains en vie, que t'as été secourir d'un labyrinthe pour faire ça.
Il y a encore un truc pas très cool dans Spelunky pour ça. Même dans le 2, t'as des esclaves que tu peux libérer justement ou sacrifier sur des hôtels et puis ils explosent en plein
sang. Tu peux te payer un helper qui va te suivre partout. Fait que essentiellement, t'achètes un esclave.
Mm. Génial.
Pas mal ça. Il y a encore une chaîne au bout du bras. C'est comme. Et il est pas noir.
Waouh!
Ok, fait que tu peux même pas dire que. C'est un mercenaire que t'as engagé, là.
Oui.
OK.
Fait que ça se voit que le jeu est un peu vieux, là. Il y a des choses dedans, justement. Ça fait partie des trucs intéressants de voir qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui n'a pas été changé.
Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on voulait montrer une espèce de feeling des années, 40 ou quelque chose comme ça. Tu sais, dans le temps où il y avait les films de James Bond qui avaient des trucs sans aucun sens, ou même au début Indiana Jones qui était super sexiste finalement. Je pense qu'il y avait comme une volonté d'inclure ça dans le jeu pour que ça fasse vieillot, genre que ça soit un peu intense pour rien. Parce que c'est tellement cartoon, tu peux pas le prendre au sérieux, là.
Ouais, c'est très Indiana Jones, là. Même le core du jeu, c'est que t'es un explorateur puis tu veux aller chercher le... L'idole, la tête en or qui est au fond de la jungle, c'est comme... Et le 2, du coup, se passe sur la Lune. Fait qu'il y a, tout un système de grottes inimaginé, inexploré, qui se trouve en fait sur la Lune. Puis justement, si tu joues plus au jeu, puis que tu vas plus loin, tu te rends compte qu'il y a des choses. Je sais pas si je veux pas faire de spoiler, hein, mais il y a comme des sociétés, micro-sociétés d'aliens là. Ça devient limite un truc à Dark Souls où en fait tu trouves du lore dans le journal de avec les explications des ennemis et tout. T'es là genre tu vois un des ennemis qui a un petit alien par exemple, ça te dit The Firstborn of the Queen. T'es là
Ok.
What? Puis tu regardes un autre ennemi, après tu vois pendant la Grande Guerre, ce peuple, bah, t'es là, ok. Donc il y a une histoire en fait, et je connais pas encore toute l'histoire parce qu'il faut jouer au jeu et débloquer des trucs pour comprendre l'histoire. Mais c'est
Ah, mais c'est le
le
fun
lore de
ça.
Spelunky.
Ouais.
Sur la
Nice.
Lune.
Y avait des trucs un petit peu du genre dans le premier, mais c'était loin d'être aussi développé, là. C'était vraiment minime. T'avais des zones vraiment, vraiment bien cachées, mais t'avais du vrai lore sur ce qu'il y avait dans le jeu, là.
Ouais,
Tu
dans le
trouvais des
premier,
trucs.
tu pouvais aller aux enfers, battre le roi des enfers. C'était pas mal la fin la plus
Ouais.
épique.
Est-ce que c'est comme ça qui explique le fait que le bonhomme il a un petit peu plus de jump floaty, comme tu disais tantôt? C'est que, ah, mais c'est ce que c'est sur
Ah,
la
sur la
Lune.
lune.
Mais j'ai pas pensé, mais ça se pourrait.
Quand même drôle. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur Spelunky.
Moi,
Est-ce
je
que
suis
c'est
contente
bon?
de savoir qu'il y ait du lore, c'est le fun, ça. C'est le genre de
Moi, je
truc qui
trouve ça vraiment
m'intéresse.
fun. Oui.
Ouais.
Mais ce que je trouve de. Ce que j'aime beaucoup avec Spelunky, c'est. En tout cas, le 2, là. C'est la façon, justement, dont c'est. Dont est géré le multiplayer. Puis, c'est quelque chose que j'attends vraiment. Il va y avoir une update qui devrait sortir. Incessamment sous peu, on va pouvoir jouer multiplayer chacun depuis son propre PC ou sa propre console. Que en ce moment, je crois que le multiplayer en ligne est seulement sur la PlayStation 4, donc il faut deux PS4 pour jouer en ligne. Puis nous, on joue avec une PS4. Fait qu'on joue ensemble sur le même jeu. Puis c'est un des personnages qui contrôle la caméra. Puis that's it. Le deuxième personnage a intérêt à suivre.
Oh oui, je
D'où
me
les
rappelle
morts.
de ça. Ouais,
Tous les
je me
morts qui
rappelle de ça.
arrivent,
Ouais, des
puis
fois tu
c'est.
tombes, t'sais, puis là c'est
Ouais.
comme bye, je
Parce
suis
qu'on
plus
avait joué une
là.
fois toute la gang du podcast chez
C'est
Louis, là. C'est
ça.
la seule fois ever que j'ai joué, moi. Puis je me rappelle vraiment de. Ouais, de pas avoir bien suivi la caméra.
Puis je trouve ça très intéressant du coup parce que tu pourrais te dire qu'en tout cas, quand tu joues à deux, les ressources, t'as deux fois plus de vie parce que t'as deux personnages qui ont de la vie au lieu d'un seul personnage. Tu peux. Transporter deux objets d'un niveau à un autre alors que normalement tu peux en transporter qu'un, mais ça vient avec le contre-coup de faut rester en vie, faut rester proche pour rester dans la caméra, mais si t'es trop proche, tu te fais tuer par l'autre, donc faut avoir la bonne communication. Puis je trouvais ça vraiment fun à jouer ensemble avec ma partenaire pour ça.
Je pense que c'est un
Ah
peu
ben.
pour ça qu'ils voulaient que ce soit en multiplayer coop local, là, en local coop, justement pour avoir la communication constante, puis cette espèce d'expérience-là. Mais bon, en période de pandémie, je pense que tous les jeux local coop devraient être jouables en ligne.
Oui.
Je pense que c'était disponible sur Steam. Il y avait une espèce de service où est-ce que tu pouvais inviter quelqu'un dans tes games, même s'il n'y avait pas le
Oui.
jeu, genre, puis Steam te faisait un truc qui réussissait à emmener les contrôles chez vous, dans ton ordi, puis tout le monde joue sur ton ordi, puis ça leur envoie le stream.
Je sais pas si ça, ouais, si ça fonctionne encore ou comment ça s'appelait ou
Je l'ai essayé une fois, là,
Roblox.
c'était un peu slow, mais ça fonctionnait là, dans une certaine mesure. Fait que je pense que c'est une autre option pour jouer au vieux Spelunky comme ça.
Le
Peut-être
problème
même
avec
aux
un jeu
deux, je
comme
sais pas.
Spelunky, c'est qu'avec il faut des temps de réaction au quart de frame là.
Ouais, des fois.
Ça devient un peu. En tout cas, nous on avait essayé d'y jouer justement ensemble avec ma partenaire là, chacun sur notre PC, puis. Quand t'as l'habitude de jouer en local co-op, tu veux pas jouer en. Si t'as l'option d'être à côté parce que physiquement on est à côté, c'était plus sympa de jouer sur le canapé
Sûr.
que chacune sur son PC, mais avec une seconde de lag, c'était difficile pour un jeu comme ça.
Ouais, ça fait pas la job dans ce cas-ci. Fait
Oui.
que mettons qu'on change de sujet là, avec une transition très mauvaise comme je suis en train de faire. Ben justement, tu nous as parlé que là, tu jouais à Spelunky avec ta blonde et que là, elle était en train de rejouer à Céleste.
Exact.
Parce que là, il y a une nouvelle qui est sortie. C'est sorti comme cette semaine ou la semaine passée. Bon, là, évidemment, il a perdu mon anglais.
Ah non.
Mais peut-être que tu veux nous en parler?
Oui, c'est sorti il y a 6 jours apparemment,
Ah
d'après
ouais?
le...
Bon.
J'avais l'onglet, moi, sous la main. Sous
Parfait.
les yeux.
Vas-y, parce que là, moi, j'ai tout perdu, là.
Mais c'est justement ma blonde qui m'a partagé l'article de la personne qui a fait Céleste. C'est Maddie Thorson, c'est ça?
C'est ça, oui.
Oui. Ça, donc que moi je connaissais pas vraiment forcément, qui en fait a fait son coming out en tant que personne trans il n'y a pas si longtemps. Je sais pas trop en fait, peut-être il y a longtemps, mais
Je sais pas non plus. Hein.
je pense pas. Mais en tout cas, l'article justement parle de Céleste et dit que à l'époque où elle a fait Céleste, en fait, elle ne se rendait pas forcément compte qu'elle était une personne trans et que en fait, le personnage de Céleste est aussi un personnage trans. Et que justement, en fait, c'est une réalisation qui s'est faite d'elle-même. Et du coup, c'est tout un article super intéressant que j'ai même pas fini de lire, mais
Ah, zut.
qui justement parle de d'écrire des histoires mettant en avant des personnes trans. Ça parle entre autres aussi de comment voir ça, justement, si par exemple tu es quelqu'un qui a joué à Céleste et qui s'est vachement identifié à l'histoire, parce que tu es identifié à différentes choses de l'histoire, et que maintenant, après coup, l'auteur dit, ah mais oui, c'est une histoire trans, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Puis donc là, je pense que c'est justement un texte qui adresse un peu la situation en disant, mais... C'est pour ça qu'il faut la représentation dans les médias, c'est parce que c'est pas juste pour que les personnes trans puissent voir des personnes trans à l'écran, mais c'est pour que tout le monde se rende compte qu'en fait,
Ça existe.
ouais, on peut relater avec des histoires de personnes trans, en fait, sans forcément, en étant trans ou sans être trans. Puis, je trouve ça fascinant. Donc oui, ma blonde rejoue à Céleste en ce moment avec cette nouvelle. Lecture, puisque elle est aussi elle-même une personne trans, donc ça fait des gros wow effect. Puis je trouve ça vraiment fun aussi, parce que moi aussi quand j'avais joué à Céleste pour la première fois, je suis pas allée très très loin toute seule, donc ça fait pas partie des jeux que je suis tellement meilleure que vous là.
Mon Dieu, c'est dur. C'est si dur. Mais
C'est
faudrait
tellement dur,
que.
ouais.
Mais il y a un mode pour aider, là. Donc, il a fallu que j'essaye. Je sais pas trop qu'est-ce que ça fait. Je pense que t'as un ralenti ou t'as plus de power-up ou.
Non, le
Non?
mode, j'avais lu sur comment ils ont fait le mode ralenti. C'est le mode easy,
Ouais.
c'est le même jeu, les ennemis aux mêmes places, les mêmes pièges, tout exactement pareil. Il n'y a pas de power-up ou rien. Le jeu roule plus lentement pour te donner un meilleur temps de réaction. C'est la seule différence.
OK.
Le jeu roule comme, je sais pas, mettons 25% plus lentement ou 40% plus lentement. C'est pas, même pas comme 3 fois plus lentement, là, juste comme un peu plus
Un peu.
lentement pour comme si t'es moins à l'aise avec une manette, peut comme jouer le jeu plus lentement. Et puis c'est,
OK, ça
je me
c'était pas dans le
souviens que
passé pour moi.
ça avait été comment dire, il y avait des
Débattu.
critiques qui avaient dit que c'était bien parce que c'est comme t'as quand même fini le même jeu. C'est le même jeu que t'as. C'est quelqu'un qui. Parce que les gens, tu sais, les gamers, on le sait bien, là, les gens, c'est comme. Ah, oh, t'as fini ce jeu-là? Ouais, mais tu l'as fini à easy. Fait que tu l'as pas vraiment fini. Parce que, comme, ah, oh, ben là, tu one-shot tous les ennemis, c'est pas pareil. Mais là, c'est pareil. C'est juste ralenti pour quelqu'un qui est plus lent avec une manette. Fait que t'es comme, t'es plus lent avec une manette, on remet le jeu plus lent, et voilà. C'est réglé. Fait que tu sais, c'était vu comme positif. En tout cas, ce que j'avais lu, là,
Est-ce
avait
que je
été
peux
vu
me
comme.
permettre une anecdote de Sonic?
Oh mon Dieu!
Je voulais juste faire référence au fait qu'apparemment, Yuji Naka, quand il designait je pense les deux premiers Sonic, il était pas très bon, il était pas capable, ça roulait trop vite pour lui. Fait que constamment, Yuji Naka avait une version du jeu en développement, là où il était rendu, mais qui roulait plus lent.
Huh. Nice.
Genre, pas que Sonic était plus lent, sinon il aurait pas été capable, genre, de grimper les côtes puis faire les loops, mais le jeu roulait au ralenti. Fait que je pense qu'ils l'ont pas à faire, mondialement, mais le designer préférait designer son jeu comme ça. Et quand tu écris de la musique, tu veux écrire des lignes très, très, très rapides, très virtuoses, ça peut être bon de les composer très lentement avant de les accélérer. C'est pas du tout une honte ou un problème.
De toute façon, quand on les apprend lentement, puis on accélère, puis on accélère, puis on accélère. Donc,
toujours. Ça
fait du sens.
Fait que, est-ce que t'as... Ben là, je sais que t'as dit qu'elle était en train de rejouer, fait que, est-ce que t'as pu discuter avec elle pour savoir s'il y avait des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a... Je suis curieux, là, de savoir.
Ouais, ben ouais, justement, son avis, là, elle est rendue à peu près à la moitié du jeu. En fait, elle stream ce soir, je crois, la fin.
Oh!
Puis ça, elle disait que c'était fou qu'effectivement, elle avait une relecture totalement différente, mais qui... comment dire? Pas différente dans le sens... je pensais pas à ça, mais plutôt dans le sens... en fait, c'est... Un peu comme l'autrice, en fait, de Céleste, justement, oh mon Dieu, mais je m'étais jamais rendu compte que c'était ça que je ressentais. C'est que, notamment, toute une histoire de quand Madeleine découvre son double dans un miroir, puis que ça, elle se sépare, puis après, à la fin, elles se remettent ensemble. C'est comme, c'est super powerful, là, comme vision de...
Ben oui, j'avais pas pensé, mais c'est vrai.
Il y a une phase de rejet à un moment dans l'histoire où justement elle rejette son double puis elle doit se débrouiller toute seule puis c'est vraiment intéressant, ça me donne envie d'y jouer aussi justement. C'est bien que t'aies parlé du mode accessible là, ouais.
Ouais, je pense parce que c'est accessibility mode que tu ouais.
C'est ça, parce que ça me donne vraiment le goût d'essayer avec ça justement, je trouve que c'est une bonne façon de rendre ça accessible. En tout cas, c'est pas forcément la façon de rendre ça le plus accessible possible, mais c'est toujours le problème de l'accessibilité.
J'aime beaucoup ce qu'elle discute dans l'article sur le fait que c'est ça, si quelqu'un de cis a été très touché par cette histoire-là avant même que la personne qui écrit l'histoire sache qu'elle était trans puis qu'elle a écrit une épopée sur le fait d'être trans... que les gens cis, comme, faut pas qu'ils pensent que, ah ben finalement, je pensais que ça me correspondait, puis je me voyais là-dedans, mais finalement non, je me vois plus là-dedans. c'est pas ça, parce que ça reste une expérience humaine, ça reste une expérience que plein de gens peuvent ressentir, auquel plein de gens peuvent s'identifier, de justement, comme la réflexion, plusieurs partie de soi-même, plusieurs aspects de sa personnalité, se réconcilier avec soi-même, puis tout ça, c'est des expériences qui sont relatable pour tous les humains. T'sais, c'est pas une expérience trans, puis tout le monde est exclu de ce que c'est. T'sais, fait que j'aime beaucoup le fait qu'elle aborde ça dans l'article pour dire que...
Mais c'est surtout que, corrigez-moi, là, mais comme il me semble que Céleste, c'est pas exactement le jeu le plus bavard qui va comme... avoir beaucoup de dialogues puis qui va expliquer tout ça, c'est plus comme en image, à moins que je me trompe.
Ouais, je pense qu'il y a pas grand-texte.
Il y a un peu de dialogue.
Ouais,
okay. Il y a un peu de texte quand même, mais il est vraiment sublimé par le gameplay en fait, où c'est ça, genre tu vas avoir un moment de texte par exemple, donc son double va dire, elles vont se disputer, puis regarde, c'est comme ça, je me casse, puis t'as deux fois moins de pouvoir parce que t'as un jump en moins parce que t'as plus ton double, fait que c'est quand même, t'as un petit moment de texte, mais t'as genre peut-être 4 heures de jeu où il te manque ton jump là, que peut-être tu le ressens vraiment, fait que en tout cas moi ça m'a donné l'impression que la narration est hyper importante dans Céleste, mais je pense que t'as raison, en fait il n'y a pas tant de narration que ça, c'est juste elle est ressentie vraiment fort parce que le jeu lui-même, le gameplay fait écho au petit morceau de texte qu'il y a.
Dans l'article aussi, il y a un bout sur... Ben, elle adresse le fait que c'est pas mentionné clairement que Céleste est trans, même dans les dernières parties qui sont sorties plus récemment, puis tout, que c'est jamais adressé, c'est jamais mis clair, puis elle discute le... J'apprécie qu'elle en parle, mais aussi comme j'apprécie la réflexion qu'effectivement, c'est pas nécessaire. Tu peux raconter une histoire trans sans mettre le tag sur la boîte, en gros, puis que ce soit clair dans la face de tout le monde, tu sais. Ça avait pas besoin d'être dit. Ça avait pas besoin d'être mis clair, on avait pas besoin de mettre une étiquette sur Madeleine, puis j'apprécie aussi quand elle dit que, ben, Madeleine, ça aurait probablement pas été comme, en tant que personnage, ça aurait probablement pas été le personnage le plus vocal, puis le plus clair, net et précis dans la face du monde à ce sujet-là, donc on lui laisse son intimité, puis le choix de garder ça pour elle. Puis je trouve ça vraiment super intéressant, en fait. Justement, c'est ça, comme le jeu est tellement léger sur la narration puis les mots que ça aurait été bizarre de juste comme plugger ça comme ça. Ça aurait eu l'air d'être justement comme plugger ou rajouter.
Ouais, ouais.
Ouais. Non, tout ça, c'est vraiment, c'est super intéressant. Ouais,
ben je pense que c'est une conception, tu sais, c'est culturel là, de dire... c'est un de mes amis qui me faisait remarquer ça l'autre fois, puis... dans le sens que, tu sais, notre langage en français, toutes les phrases qu'on construit, on est en train de parler des autres personnes en mentionnant, en sous-entendant qu'est-ce qu'ils ont entre les jambes.
Mm-hmm.
J'étais comme, hey, c'est vrai que dit de même, c'est quand même assez ridicule, hein? C'est comme, toutes les constructions, toutes les phrases, quand je mentionne quelqu'un, je parle de ma sœur, mon frère, ça, c'est... Ah, là, vous savez exactement qu'est-ce qu'ils ont entre les jambes. Parce que ça a l'air que culturellement, c'est bien important.
C'est vrai que c'est
quand même drôle.
C'est
fait que, culturel. Oui, donc, que Madeleine, tu sais, comme... Ben, comme c'est un personnage qui est comme 8 pixels de haut dans le jeu, là.
Oui,
c'est si important qu'on sache qu'est-ce qu'il y a là entre les jambes?
Non, c'est ça.
Je pense que c'est d'autant plus fort aussi le fait que le personnage lui-même, on sait pas si elle sait, on sait pas s'il est au courant, puis...
Mais parce que la développeuse le savait pas, tu sais.
Ça, ça compte aussi.
Ouais.
C'est ça, ouais, je trouve que ça rend le truc encore plus authentique, ouais, je pense que c'est, ça, cool, c'est ça, c'est vraiment beau.
Ouais.
Puis tu sais, moi, je veux dire, comme... Maddie Thorson.
Ouais, d'habitude,
j'essaie de prononcer ça comme du monde.
Après le Thor puis avant le Son, mais là c'est juste Thorson.
Ouais, ben c'est ça, c'est parce que comme elle, on la connaissait parce que c'était là je vais dire Spelunky, mais évidemment c'est pas Spelunky.
Towerfall.
Towerfall. Merci. Fait que c'est ça. Puis tu sais, c'était quoi le nom du studio? Parce que le studio, c'est en fait une personne. Là.
Je sais pas.
C'est pas comme Matt Make Games? En tout cas, c'est ça. C'est tout ça, parce que là où ce que j'essaye d'en venir, puis c'est comme, tu sais, évidemment que là moi, je lis ça, puis c'est comme mon cerveau il est comme mêlé puis confus. C'est comme de dire ah. Ben, c'était Matt Thorson. Thorson. J'ai de la misère avec les noms. Thorson, qui faisait Towerfall, puis qui faisait Céleste. Puis là, je suis comme, oh non!
Ben, c'est correct, on va juste ajuster.
Oh non. Non, maintenant, il faut que je fasse ça. Thorson. Ce que je veux dire, c'est que...
Ah, c'est encore Matt Make Game sur le site de Céleste.com, en fait. CelesteGame.com. Mais...
Je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça, là, mais je pense que ce que j'essayais de dire, c'est que, comme, pour ceux qui ont suivi l'historique du studio puis de cette personne-là, je pense que c'est normal d'être un peu mêlé. Puis donc, mais je pense que le fait de lire ça, puis le fait de jouer le jeu, puis le fait de comment qu'elle raconte, comme genre, quand elle faisait le jeu, elle le savait pas elle-même, fait que c'était. Donc, mais le personnage le sait pas non plus. Potentiellement. Fait que là, pis le jeu parle un peu de ça, mais pas vraiment parce que l'auteur savait pas. Puis je trouve ça quand même vraiment intéressant d'après ça de faire une relecture. L'auteur fait une relecture. Mm-hmm. et découvre « Ah, mais c'était évident! »
Mais ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, je pense que c'est discuté au début que... Parce que l'article commence avec ça, genre « is Madeline trans? Of course she is! » Elle mentionne le fait qu'en fait, toutes les, comme il y a plein de personnes trans qui ont joué à Céleste puis qui ont fait genre, ça me semble être une histoire de, genre, la découverte d'une personne qui est trans, puis l'autrice, elle s'en est, comme, elle, c'est pas elle qui l'a réalisé en premier, tu sais. Donc c'est super intéressant.
Ça me fait penser, ouais. Dis-moi si je digresse, là, coupe-moi, mais quand...
Mais on a juste une vie. Le podcast des digressions.
Ça me fait penser quand elle est en cours de français ou de littérature où tu vas lire un livre puis tu vas voir un prof qui va te dire genre alors là est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était ça qu'il fallait comprendre puis tu sais oui. Toi t'as pas forcément compris ça puis tu sais des fois tu te demandes genre mais est-ce que l'auteur c'était vraiment ça qu'il voulait qu'on comprenne ou est-ce que c'est juste genre une espèce de bullshit que genre oh, c'est ça que ça veut dire puis tu sais c'est...
Alors, surtout les œuvres classiques, là, des fois, j'ai l'impression qu'après la Renaissance, il y a des gens qui les ont relus puis qui ont fait « Ah ah! » Mais, tu sais, je suis pas sûre que l'auteur, il voyait ça non plus. Ouais.
Oh, c'est ben ça, je me dis que là, c'est comme un exemple live que, genre, on peut peut-être vouloir dire quelque chose sans forcément s'en rendre compte, puis finalement, le dire après, et l'inverse doit être possible sûrement aussi.
Ben, dans les cours d'analyse littéraire ou d'analyse cinématographique, on parle de justement, t'as l'auteur qui a écrit le livre, mais comme l'œuvre elle-même, le narrateur, ou la... Tu sais, c'est comme, on voyait ça comme étant deux personnes différentes. Fait que ça arrivait que les profs nous disaient genre, ouais, c'est probablement pas ça que l'auteur voulait dire, mais c'est comme ça historiquement, on l'a interprété, parce que comme l'auteur s'en rendait pas compte, ou tu sais, c'est surtout... plus visible dans des cas comme je sais pas, mettons que l'auteur il a écrit des affaires terribles, genre racistes, ou c'est comme ben là, il voulait pas, t'sais, l'œuvre était pas, voulait pas comme ça, parce qu'à l'époque, elle était lue comme ça, mais c'est sûr qu'avec nos yeux d'aujourd'hui, évidemment que ce qu'on voit, c'est ce truc-là. Fait que, t'sais, oui, les relectures d'œuvres, ça arrive. Puis, si vous me permettez une autre, encore plus grande digression... on remonte un petit peu plus loin à Cléopâtre. Il y a la chaîne YouTube Extra Credit qui viennent de terminer une série de 5 épisodes sur Cléopâtre. Puis, notamment, ils adressent le fait que, ben, historiquement, Cléopâtre, elle a été vue d'une certaine manière dans des sociétés plus patriarcales, on va dire,
ouais.
Occidentales. Puis elle a été, tu sais, t'as Cléopâtre comment qu'elle était vue par les Romains à l'époque, t'as Cléopâtre comment qu'elle était vue dans les années 1600 quand ils ont comme ressorti les textes puis ont fait « Ah tiens, c'est intéressant cette histoire-là », puis là ils l'ont raconté. T'as Cléopâtre vue dans les années début 1900, puis là t'as Cléopâtre vue aujourd'hui où est-ce que là il y a comme des études féministes qui se sont mis le nez là-dedans puis ils ont fait comme « Guys ». Que, attention là, parce que là ça c'est tout de la bullshit, ça c'était de la propagande romaine, vous avez pris ça pour du cash, mais c'est n'importe quoi, t'sais, comme Cléopâtre, non, regardez là elle a fait ça, là elle a fait ça, regardez comment elle était cool puis badass. Puis c'est ça que la série mettait en lumière, c'est comme une relecture, ben pas une relecture parce que là c'est comme on a des nouvelles connaissances, des nouveaux textes, mais pis...
Oh, ça c'est des faits historiques là. C'est pas une interprétation d'une histoire là.
Mais... Ouais, mais ils ont fait le choix, c'est ça qui explique dans le making of, c'est qu'ils ont fait le choix de faire d'ignorer la conception de Cléopâtre qu'on avait mettons v'là 30 ans, puis de vraiment focusser sur les nouvelles études pour lui ben redonner sa, tu sais, comme lui redonner son, tu sais, c'était pas juste comme une femme fatale, elle était aussi une très bonne politicienne, puis tu sais, par exemple.
Ah, c'était pas une chef d'État, genre.
Ouais, comme elle savait, elle manigançait ses affaires comme les autres politiciens, elle tirait son épingle du jeu. Tu sais, c'était pas juste la femme fatale qui a magiquement crousé Jules César, puis tu sais. tout cas, si ça vous intéresse, je ne veux pas trop en parler.
Moi, je me souviens comment on l'avait présenté dans Astérix, puis je trouve que c'est assez fidèle avec ce que tu viens de raconter.
Moi aussi, c'est
ben, OK, elle a l'air trop snob, mais elle a du guts, puis elle fait ses trucs, là, genre, c'est pas...
Bon,
il n'y a personne qui mène Cléopâtre, là.
Dans Astérix, tu vois, c'est plus une vision des années peut-être 80 où, genre, les femmes commençaient à prendre du pouvoir, puis il y a comme toute une espèce d'époque de littérature, parce que Cléopâtre, dans Astérix, elle fait un peu ce qu'elle veut, puis elle amène Jules César par le bout du nez, là, puis il est toujours comme « OK, chérie ». Ça fait que c'est comme, là, c'est un espèce d'autre bout de la littérature où les hommes mariés se font mener par le bout du nez, puis ils n'ont pas rien à dire, puis tu sais, alors ça, c'est... On rentre dans,
ouais,
dans
une autre affaire. Je suis d'accord avec ce côté-là, ouais, aussi. Là.
Ouais, on voit que ça a été écrit par des gars, là.
Ouais,
exactement.
Mais à une époque où, c'est ça, un homme marié a un boulet au pied, puis, tu sais, mm-hmm. La femme castrante, etc.
Pourquoi qu'on parlait de ça, tout ça? C'est de ma faute.
C'est la relecture de Cléopâtre. C'est à cause de ça.
Parce qu'on disait que la personne qui a designé Céleste, elle aussi a eu des révélations, des nouvelles informations sur une œuvre historique. Puis là, ça a changé son analyse.
Même si c'est elle qui l'a écrite.
Ça me fait penser à une histoire d'une connaissance, je pense. C'est le gars qui était allé annoncer genre à sa mère qu'il était gay. Puis en fait, comme ben, ça fait un bout de temps qu'on le sait. Peut-être que toi, t'avais pas remarqué, mais c'était quand même assez évident.
Ma mère est même avec tout le monde.
C'est ça. Ça me fait penser justement aux personnes trans qui ont pu jouer à Céleste, puis qui avaient comme compris, mais comme tu peux jamais être 100% sûr, là.
Ah non.
Tu veux pas assumer n'importe quoi sur n'importe qui. Mais...
Puis même, ça ne sert des fois à rien de le dire tant que la personne l'a pas compris elle-même.
Non, sûrement. Hein.
C'est ça, il y a tout ce stress-là de vouloir affixer une étiquette sur tout et n'importe quoi, puis que tout soit clair et net, et c'est donc important de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les pantalons de quelqu'un, puis c'est ça. C'est important de toujours garder une perspective. Puis, j'avais beaucoup apprécié les mimes qui sont venus avec Undertale, qui demandait... au personnage principal, OK, mais qu'est-ce qu'il y a dans tes pantalons? Puis il répondait, Determination. Mais ça m'avait tellement fait rire. Are you a boy or a girl? Eh, but what's in your pants? Determination. J'avais trouvé ça parfait. Puis comme, j'espère vraiment que tous les jeunes, plus ados, puis la génération Tumblr qui ont grandi avec Undertale, gardent un peu cet esprit-là en tête, puis ces valeurs-là de genre. C'est pas important de mettre une étiquette sur tout le monde, là. C'est pas, pourquoi est-ce qu'on passe du temps là-dessus, mettons, là?
Ben, ça se peut-tu qu'il y a des gens que c'est comme, genre, là, je veux absolument savoir, parce que là, si j'ai aimé un jeu avec un personnage trans, là, quelle honte!
Ben, je pense que...
J'imagine qu'il y a des gens qui pensent un peu ça, qui sont comme, genre, comment oses-tu m'enlever mon Céleste?
Oui.
Mon jeu hardcore de gamer?
Il y a des déchets qui pensent ça, mais comme je pense que plus... Non, mais des fois, il faut reconnaître les biais qu'on a, puis je pense que plus globalement, on est souvent un peu en train de chercher si c'est un gars ou une fille pour savoir quel pronom utiliser, juste pour que ce soit clair dans notre esprit de la façon qu'on parle d'un individu, genre. Je trouve qu'on est comme beaucoup comme ça, mais c'est parce qu'on est éduqué comme ça, on est socialisé comme ça, c'est vraiment culturel, là. Mais comme souvent, comme c'est ça, personnellement, tu sais, tu joues à un jeu ou quelque chose, puis là, tu t'aimes ça, un gars ou une fille, tu sais, tu cherches les pronoms, puis tu... juste parce que, pour que dans ta tête, tu puisses le mettre dans une petite boîte, puis que tout soit clair et précis dans la façon que tu t'adresses, ou que tu réfléchis à cet individu-là, tu sais. Fait que, oui, je pense que inconsciemment, on est souvent en train d'un peu de chercher, genre...
Quand tu vois, ne serait-ce que les animaux domestiques, genre, c'est une des premières questions que les gens posent à chaque fois que t'as un animal, genre, si tu es une femelle ou un mâle, tu veux le faire reproduire ou...
c'est pertinent. Pour avoir les bons pronoms, mais j'essaie de plus faire ça aussi, comme de genre d'ostiner les gens quand ils utilisent le mauvais pronom pour mon chat. C'est pas grave, là. T'sais, on s'en fout.
Ouais, moi c'est pareil. Et puis c'est vraiment ancré. C'est ça qui est fou, c'est que justement j'essaie de me dire que enfin on en a rien à faire et puis c'est pas important, mais ça va quand même être un peu comme un mécanisme, une question que je posais super souvent. Et en fait, c'est quel genre ton animal?
Oui, c'est ça, mais on est si habitués. C'est ça qui est dur à casser puis qu'il va falloir essayer de casser avec les prochaines générations puis tout, c'est qu'on est, on est donc habitués. T'sais.
Ce qu'il faut demander, c'est quel pronom ton animal préfère.
Ben oui, les croquettes. Je sais pas si c'est des trônes, c'est ça.
Les croquettes.
Le saumon et.
Ouais, c'est ça. Ton chat est plus poulet ou saumon.
Ça dépend des je pense que c'est ce qui est cool avec les animaux. Là. Genre, vu qu'ils n'utilisent pas notre langue, puis ces genres de référents-là, ben, ça peut pas leur faire de mal.
Mm-hmm. C'est super
de toute façon, ils veulent, aussi, juste des... ils veulent juste des flat-flat.
Tu sais, les gens qui sont comme, il existe juste deux sexes. Tu sais, moi, j'ai une chatte trois couleurs, mais il existe, je pense, un 10% des chats trois couleurs qui sont qui ont des organes génitaux mâles, même si le fait d'avoir trois couleurs, ça indique qu'il y a deux chromosomes X. Donc, il y a plein de chats qui sont potentiellement trans. Mais les gens aiment pas ça parler de ça.
Il me semble que niveau secondaire et cégep, c'était relativement facile de genre tester les chromosomes des élèves pour le fun, pour une expérience de science en génétique. Puis ben, ils ont arrêté de le faire parce qu'il y a plein de gens qui se rendaient compte qu'ils n'avaient pas les bons chromosomes avec. Pensais.
Oups.
Mais ça, si on parle de ça, là, les personnes intersexes, c'est le même pourcentage de population que les personnes rousses. En fait.
C'est immense. Vrai.
Fait que, tu sais, c'est dit comme ça, ça paraît à la fois pas beaucoup et à la fois énorme, en fait.
Allô?
Bonjour!
Je comprends pas pourquoi. Moi, ça m'a toujours... Je sais pas, quand j'étais jeune, je savais c'était quoi. Comme, on n'utilise plus le mot hermaphrodite, mais quand j'étais petite, je sais pas si j'avais un livre ou quelque chose, là, mais j'ai vu quelque chose quand j'étais petite qui m'a appris qu'il existe les petits gars, les petites filles puis les hermaphrodites. Puis j'ai tout le temps su que ça existait. Puis on dirait qu'à un moment donné, c'est devenu comme... Ben, c'est ça, on n'utilise plus ce mot-là. Mais genre, l'espèce de fait que les intersexes existent, c'est comme disparu, puis je comprends pas, genre, c'est-tu moi qui ai lu un livre super progressif, ou...
Parce ou
c'est que oui. Disparu? Ben ouais, I guess, je sais pas.
On veut retrouver ce livre-là, là.
C'est vrai.
Faut que tu nous l'amènes au podcast la semaine prochaine.
Ah non, en plus, ma mère, elle garde tout, là. Fait mais ma mère, elle garde tout pour ses petits-enfants, tu sais, fait qu'elle a encore tous nos livres, là. Mais en tout cas, ouais, bref.
Ça va être un livre très d'actualité quand tu vas avoir des petits-enfants.
Mais Blob, je comprends aussi parce que le fait d'avoir des chromosomes surnuméraires ou qui ne correspondent pas à tes organes génitaux ne veut pas dire que t'es trans non plus, ne veut pas dire que t'es intersexe. Mais comme, tu sais, tout ça, c'est des nuances, puis les hormones ont une grosse influence. Fait que tu es juste comme, en tant que biologiste,
ouais, ben,
tu mentionnais que genre, l'idée, c'est les chromosomes veulent pas tout dire.
Il y a plus de variables, il y a plus de choses dans la vie que un 0 puis un 1. Là. Ça ne se découpe pas.
Il y a du monde qui collectionne, il y a des lignées de familles qui collectionnent les chromosomes X parce qu'il n'y a pas de problème à en avoir trop, contrairement à la trisomie. Mettons la trisomie 21, tu en as juste un de trop, puis déjà ça change vraiment beaucoup de choses. Mais les chromosomes sexuels ne sont pas assez importants pour ça. Fait qu'il y a juste comme des lignées familiales qui collectionnent, qui en ont juste plein.
Ça, je savais pas.
Fascinant la biologie. Ben les plantes font ça, les plantes ont 82 millions de chromosomes, dont un paquet qui ne servent plus depuis des millions d'années, mais leur système les a juste jamais purgés parce que c'était pas urgent. Fait que, tu sais, mettons, je pense que les patates ont plus de chromosomes que nous autres, mais...
Les oignons aussi, il me semble.
Ouais, c'est ça, comme la majorité des plantes, mais c'est juste parce que c'était pas, comme, pertinent, tu sais. Fait que...
C'est des organismes supérieurs, c'est juste qu'on n'est pas équipé pour les comprendre.
Exactement.
C'est pas une organisation agile, puis il y a des sprints avec des tâches bien précises. Le management des chromosomes n'était pas là.
Non. C'est juste, on garde tout d'un coup. D'un coup.
Non, juste fait que c'est quoi? On peut utiliser ça comme référence la prochaine fois qu'on voit un cousin ou un oncle transphobe? Comme, ouais, mais comme, les patates, check. Il y a genre 47 chromosomes, puis comme, t'es manges pareil.
Mais je pense qu'il y a 5-6 preuves que le genre, ça se découpe pas plutôt. Mais je suis pas mal sûr que la personne qui est transphobe, tu vas y étaler, puis elle te croira pas vraiment, même si t'essayes souvent.
Moi, je plug beaucoup les oiseaux. Il y a de plus en plus d'exemples de troisième sexe ou de troisième rôle sexuel chez les oiseaux. Fait que, personnellement, dans les soupers de famille, je plug beaucoup ça.
C'est mon goût. Les Premières Nations avaient plusieurs peuples qui avaient beaucoup plus de genres que nous, genre 5, 6, ouais. Pas nécessairement tous, puis rien qui dit qu'un genre, ça doit être quelque chose de discret, ça peut être sur un spectre, c'est pas obligé. On n'a pas fini de le comprendre, c'est surtout ça qu'il faut saisir. On n'a pas fini de comprendre cette question-là pour l'instant.
Faut être comme Madeleine. On est tous en train de faire notre ascension vers le top de la montagne. En tant qu'individu et en tant que société.
Wow. Saisir genre, cette question-là pour faire chier quelqu'un d'autre, c'est juste pas gentil.
Mm-hmm.
C'est pas scientifique non plus.
Mais ouais, c'est Leslie, les mononcles gays pingouins qui élèvent les œufs des autres, c'est adorable.
Je vais me préparer pour... cet hiver, ça ira pour les soupers de famille, là. Ça risque pas d'arriver, malheureusement, cette année. Mais... enfin, malheureusement.
c'est vraiment trognon. Parce que les pingouins, je pense, ils peuvent juste couver un œuf de la shot, mais ça arrive des fois qu'ils ont des jumeaux. Fait qu'il y a un œuf qui se fait abandonner. Puis là, il y a juste comme un couple de pingouins gays qui est genre « Yes! Un œuf!
C'est à nous! »
Oui, c'est ça! Et puis ça fonctionne comme ça, c'est parfait. De toute façon, visuellement, un pingouin, tu peux pas faire la différence. Fait que ça a pris beaucoup de temps. En fait, c'est probablement pour ça que ça a pris beaucoup de temps avec les scientifiques de se rendre compte que des fois, c'était deux petits garçons qui couvaient un œuf parce qu'ils sont pareils.
Ou c'est peut-être parce que l'inverse se fait aussi, fait qu'ils ont chacune un œuf.
Ouais, mais faut qu'il y ait un papa là-dedans, par exemple, pour faire conder l'œuf.
T'as raison.
Ouais. Puis je le sais pas, comme ça marche pas.
Les pingouins, ils font pas ça tout à fait comme nous autres.
Oui, c'est ça l'affaire.
Ils font pas nécessairement le couple avant de penser à ça, puis comme un jour ça arrive, eux autres, ils ont comme l'objectif.
Ça dépend des oiseaux. Comme là-dessus, les dispositions de couple puis de famille dans les oiseaux, il y a genre à peu près toute la variété que tu peux imaginer. Là. Il y a les petits inséparables qui se trouvent un chum, une blonde, puis qui vont passer le restant de leur vie ensemble. Il y a ceux qui, à chaque année, ils switchent. Il y a tout. Il y a ceux que le père il vient juste pour féconder puis il décalisse. Il y a ceux qui vont rester ensemble. Comme, c'est super intéressant, les oiseaux. Mais c'est ça, il y a un type d'oiseau qui ont trois chromosomes sexuels en fait. Fait qu'ils ont réalisé qu'il y avait trois rôles. Puis comme le troisième, il arrive moins souvent. Puis c'est comme un parrain ou une marraine. C'est genre un oiseau qui va aider la maman à élever ses bébés. Tandis que le mâle, le cis mâle, il vient féconder puis il décolle. la nature. C'est... Bref, quand les gens vous disent « c'est pas naturel », ben ils ont tort.
Les dinosaures nous l'ont montré depuis longtemps.
Ah ouais?
Ben les oiseaux, c'est des dinosaures. Je vais juste ramener ça d'en face de tout le monde à nouveau. Là. Les oiseaux sont des dinosaures, sachez-le.
Je pensais que t'allais me dire qu'on a trouvé un squelette de dinosaure intersexe. Je l'ai tout excité.
Ben oui, c'est un oiseau.
Ah oui.
Blob, lui, il ramène tout aux dinosaures. Pour Blob, il y a juste deux genres. Dinosaures pis pas dinosaures.
Oui, dans le chat, c'est pas mal ça. Je me rappelle plus c'est quoi l'oiseau, là, mais ouais, c'est pas mal ça. Il y a genre celle qui fait les œufs, celui qui fertilise les œufs, puis celui qui s'en occupe.
Why not?
Mm-mm.
Là, je sais pas trop comment enchaîner là-dessus avec quoi que ce soit d'autre comme sujet. Alors, s'il y a quelque chose que ça vous tente de jaser...
Anne-Marie mentionnait que sa mère a gardé tout. J'ai justement hérité de quelque chose que quelqu'un a gardé.
Oh.
Parce que ma grand-mère a gardé tout. Ben non, elle gardait pas tout, mais tu sais, il y a comme des affaires importantes, comme l'armoire des jeux, ça c'est important. Fait que quand tu t'en vas dans son sous-sol, l'armoire des jeux, t'as le relativement vieux Monopoly, le relativement vieux Jour de paye, le Othello,
les vintage.
Le Perfection, il y a des spirographes, Il y a tous les jeux que ma mère et ma tante avaient quand ils étaient toutes petites. C'est des espèces d'engrenages que tu mets dans un contour en engrenage, puis il y a des trous dedans. Tu mets un stylo dedans, puis tu fais tourner l'engrenage avec les trous, puis ça fait des espèces d'étoiles, des trucs géométriques.
Ça avait gagné le prix du meilleur jeu de je sais pas quelle année.
Ah ouais.
Ouais,
j'en ai fait
un hit. Wait. Quand tu dis je sais pas quelle année, tu veux dire comme dans les 10 dernières années ou dans les 50 dernières années?
Non, c'était sorti dans les 50 dernières années.
Ok, peut-être donc 50, quand c'est sorti, il y a 50 ans. Ah, ok. Ben, ça fait des belles formes. C'est très créatif. C'est facile à faire.
Ouais, puis tu changes de gear puis de couleur, puis là, tu peux comme embarquer une nouvelle fleur par-dessus ton ancienne, faire du contraste puis de la variété. C'est très, très beau, très, très fun. C'est difficile à trouver, je trouve. J'en vois pas dans les magasins.
Non, les pubs des années 90, c'était vraiment hot. Je m'en souviens encore. Hein. Les petites musiques, puis tout. Je sais pas s'il y avait les mêmes ici. Ça faisait genre « Spirograph, Spirograph ». Je pense que j'ai toute une partie de mon cerveau qui garde les pubs des années 90. Puis c'est... Après, je me rappelle plus des noms des gens et de leur face. Et c'est à cause de ça.
Hey, on disait 50 ans, puis on n'était même pas là. Hein. C'est sorti en 65. Fait que c'est vraiment nos parents qui ont joué quand ils étaient jeunes.
Hein. OK, c'est qu'il y a dû y avoir une nouvelle version ou juste un coup marketing dans les années 90, parce que je pense qu'on a tous eu. Hein. Enfin,
ouais,
peut-être pas
tous. J'ai eu ça. C'est très intéressant que la page Wikipédia présente toutes les formules mathématiques qui expliquent les formes. Si vous êtes intéressé, genre, waouh! Il y en a beaucoup.
Il y avait des engrenages triangulaires puis en forme de ballon de football aussi, d'ailleurs. C'était vraiment quelque chose.
Sur un ballon de football, souvent, tu comme tu passais drette. Ouais.
Ça te jamais, puis ton stylo, il glissait, puis ça revolait. Il comme, je l'ai tout manqué.
Faut-tu y aller doucement, là?
Oui, ben ça nous apprenait la dextérité avec un crayon, j'imagine. En plus, ma grand-mère, elle avait le stylo, que c'est comme un gros stylo, que tu peux pousser pour descendre le bout de stylo, sauf qu'il y avait toutes les couleurs de stylo dans le même.
Oui! Et quand t'avais ça au secondaire, c'était la Cadillac, t'étais la personne la plus cool.
Il y avait le rouge, le bleu, le vert, le noir. Je pense qu'il y en avait même un autre.
Tu vas utiliser noir quand t'as rouge, bleu, vert, mauve. Voyons!
Ouais. Ah, pour faire du contraste, j'imagine.
C'est vrai que tu me dis ça, puis là, je suis comme, mon premier stylo, quand j'ai commencé à ma job, ils m'ont donné un stylo 4 couleurs.
Wow!
J'étais cool.
C'est hot, ça.
Le problème, c'est que quand tu es vide, tu peux pas changer rien. Fait que,
non, effectivement.
De manier, bon, j'ai plus de bleu, on va switcher à noir. J'ai plus de noir, on va faire vert. Bon, ben, il reste juste rouge.
Ouais, rouge, c'est un peu intense. Agressif.
Ah, ça file urgent. C'est tout ce que les gens vont faire attention à tes post-it.
Il vient de trouver son stylo que je parle.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a le même. Yes!
Mais bref,
frère
Blob,
de stylo!
Qu'est-ce que ta grand-mère a trouvé, Blob?
Ben, elle n'a pas eu besoin de le trouver parce qu'il était toujours facilement accessible. Puis souvent, quand j'y allais plus jeune, je m'arrangeais pour finir par le plugger. Mais on a trouvé le Atari 2600. Je pense que la date sur la boîte, c'était 1979. Fait que je pense qu'il est sorti peut-être en 76. Fait que c'était comme, ça faisait un bout de temps, là. Tu sais, il était populaire, il était sorti, mais c'est avant le crash de E.T. Je sais pas, eux, ils l'ont eu seconde main. Je sais pas en quelle année ils l'ont eu. Mais c'est une vieille console. Tu sais, ça fait partie, c'est pas la première génération de console, mais c'est très proche. Comme pour beaucoup de gens, c'était la première console de jeu qu'il y avait. Là. C'est clairement avant le vieux Nintendo. D'une bonne marge. Juste pour dire, en arrière, le fil, il se sépare en deux, puis il y a comme des petites oreilles que tu peux brancher après les vis d'où est-ce que tu mettrais l'antenne après la télé pour le signal.
Ouais. Parce qu'il n'y avait pas le câble.
Mais oui, il l'avait dedans. Tu avais les deux. Tu pouvais faire celui que tu voulais.
Ah, OK. Tu avais soit le câble ou l'antenne.
Ouais.
Et
là...
vraiment bien TV.
Tout était dans la boîte pour transférer. Puis après ce truc-là pour transférer le signal, tu avais une switch glissante bizarre. Ça, c'est pas une switch qui cliquait, c'est vraiment une qui glissait où est-ce que tu pouvais changer entre le jeu et la télé. Fait que là, tu branchais la console sur le 3 ou sur le 2 pour que ça marche, mais si tu voulais continuer à pogner le poste, le 2, il fallait comme que tu ailles sur la petite boîte et que tu le mettes à la télé pour qu'il arrête de pogner la console. Tu pouvais faire ça. D'ailleurs, sur la console, il fallait que tu changes la switch pour le mettre sur le 2 ou sur le 3. Parce que c'était pas pareil. Ouais, sur la... Déjà, un Atari 2600, je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est une espèce de truc noir, un petit peu profilé, mais en même temps un peu carré, avec une finition simili-bois.
Ah oui.
Simili-bois.
Comme le meuble de TV, comme
oui.
La TV chez mes parents qui était dans le sous-sol. Avec, pour changer de poste, c'était des pitons, mais comme pas des pitons comme aujourd'hui. Il y avait comme 12 pitons, puis ça, tu pesais chaque piton pour changer de poste.
C'était avec, t'avais 12 postes.
Ah non, moi, c'était avec des pitons. C'était 12 pitons parce que t'avais 12 postes. Puis tu voulais le 34? Non, mais elle n'est pas.
Il n'existe pas.
Mais là, après ça, on a eu le câble, fait que c'était correct.
Il y a une switch aussi sur la console pour le mettre en noir et blanc. Au cas où t'as pas encore la télé couleur. Ça marchait pareil si tu le mettais en couleur, sauf que ça sortait mieux si tu le mettais dans le bon mode. Fait que je connais ça depuis que je suis né. Je pense que de temps en temps, ma grand-mère le sortait. On avait trois sortes de manettes là-dessus. Le petit joystick normal, qui est essentiellement, on l'a déjà ouvert, et je sais qu'en dedans, c'est comme un D-pad du vieux NES. Mmh. C'est genre, tu sais, des petites ballons de contact. Il y en a quatre, en haut, en bas, à gauche, à droite. Fait que c'est comme un faux joystick, que quand tu bouges, ça va peser sur ces petites ballons-là. Comme il est capable de comprendre les diagonales, mais il comprend les diagonales parce qu'il sait que tu es en train de peser sur deux en même temps. Puis, fait que t'avais ça, puis un seul bouton. Ça, c'était la manette. Sinon, t'avais une autre manette avec encore un seul bouton et une roulette. Tu pouvais tourner la roulette pour jouer au jeu du cirque, entre autres. C'est comme des bonhommes sur une planche, qu'il y en a un qui tombe au bout de la planche, puis l'autre, il revole dans les airs. Puis là, ben, avec la roulette, tu pouvais tasser la planche pour essayer de rattraper le bonhomme qui volait dans les airs. Et ça se jouait à deux si tu voulais. Fait que tu pouvais avoir chacun ton bonhomme, puis tu contrôlais la planche quand tu étais rendu sur la planche. Fait que là, il fallait que ce soit ton ami qui te rattrape. Ou dans ce cas-ci, ma sœur. Et dans ce cas-ci, elle me rattrapait pas parce qu'elle jouait pas à ça.
J'aime qu'ils se sont dit hey, on peut mettre soit une roulette, soit un joystick, puis un bouton. Puis là, il y a quelqu'un qui s'est dit « Wow, 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 pas trois contrôles sur une même manette, là, deux, c'est assez. Joystick et bouton, ou roulette et bouton, mais pas les trois en même temps, voyons donc. À quoi tu penses? »
Sinon, si t'étais riche ou que tu l'achetais beaucoup plus tard, il y avait aussi le pad clavier qui avait 12 boutons dessus, un peu comme un clavier de téléphone. Puis là, tu pouvais changer la petite plaque de plastique sur le dessus que c'était écrit c'est quoi que les boutons font. Parce que quand tu achetais le jeu, ça venait avec le jeu. Puis là, tu pouvais la glisser sur le dessus. Fait qu'il y avait des genres de simulateurs de vaisseaux spatiaux avec comme des fonctions de vaisseau spatial où est-ce que tu pouvais peser là-dessus. Mais il y a aussi quelqu'un qui a fait une version de BASIC pour que tu puisses programmer sur ton Atari avec 12 boutons. Ça devait aller super mal, mais ça marchait.
J'espère que tu veux pas trop utiliser des Z.
Je sais pas comment ça marchait. Forcément, il fallait que tu pèses plein de fois pour changer la lettre. Puis le système d'affichage est un peu mauvais là, sur Atari 2600. C'est des pixels rectangulaires. Ils sont même pas carrés. Il y a comme plusieurs modes d'affichage qui vont changer comme le nombre de scanlines. Fait que tu peux comme toutes les effoirer ensemble pour avoir le double de résolution verticale. Puis ça fait que les pixels sont encore plus rectangulaires. Mais bon, je sais pas, mettons, assez parlé de la console, je veux juste vous parler d'un seul jeu parce que je veux pas dire que c'est mon jeu préféré, mais je l'aime bien. Celui-là, il venait avec le livre d'instruction, il y avait une bande dessinée dedans. Ça, j'aimais toujours ça parce que jouer au jeu, c'est le fun, mais je sais pas vous autres si vous aimiez ça, lire les livres d'instruction quand vous pouviez pas jouer au jeu parce qu'il était pas plugué ou fallait, je sais pas, voyage en auto. Comme quand je pouvais pas jouer, je lisais mes livres d'instruction.
Ouais, je suis pas
Puis
mal
là, il y
sûre que
avait.
je les ai lus aussi, les premiers jeux PC que j'ai eus, là.
Des
Ouais,
fois, il y avait des super belles images. Oui.
j'ai une grande question, c'est est-ce que l'un de vous a déjà utilisé les pages notes à la fin des livrets d'instructions? Parce que moi, je
Oh
suis
boy.
restée, genre, intouchée. Si tu
Non.
peux... Un si beau livret que tu lis, t'as pas envie d'écrire dedans?
Non, pas
Voyons
du tout.
donc.
Je
Moi, faut
pense
écrire
qu'on a
là-dedans.
écrit. Je pense qu'on a écrit les codes pour les tableaux dans Pilot Wings.
Oh.
Faudrait que je retourne voir. Possiblement, je l'ai encore, celui-là.
Ah
Sur
non, hey
Super
non.
Nintendo.
J'aurais pris une feuille à part puis je l'aurais mis dans le livret.
C'est pas mal ça qui ressemble à mes livrets, moi, si
Je
j'en ai
veux dire,
encore.
Leslie, comment oses-tu nous poser cette question-là? Tu nous prends-tu pour des sauvages?
Non, mais c'est une bonne question, c'est vrai. Moi
Des
aussi, j'aime ces
êtres
pages-là.
primitifs?
Et c'est
Je cherche
important de
toujours une
parler de ça.
personne qui a écrit ça, qui a écrit dans ses pages de notes. Peut-être qu'elle existe.
Peut-être.
C'est important de poser ces questions-là parce que c'est terminé cette époque-là. Les livres d'instruction, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, puis il n'y en aura plus probablement.
Ben, ils te mettent une petite page de tout petit, une petite feuille, un petit feuillet avec rempli de trucs légaux.
Ah, tous les jeux de Switch que j'ai achetés, il n'y avait rien. Puis si tu voulais avoir des instructions, c'est comme ben, y a un tutoriel dans le jeu ou dans le menu de la console, en sélectionnant le jeu, tu fais un bouton, puis ça t'amène vers des instructions, des fois.
En fait, je sais pas si tu as vu passer Blob qui ont annoncé pour les 30 ans de Fire Emblem, ils remaster le premier puis ils le sortent sur la Switch avec un gros collector edition. Puis ils ont réimprimé les éditions de Nintendo Power qui parlaient du premier Fire Emblem dedans. Il y a vraiment plein d'affaires, puis je pense qu'il y a un livre d'instructions. J'essaie de trouver dans
Mais
un coin.
le premier ou celui sur Game Boy Advance ou je sais pas.
Shadow Dragon and the Blade of Patent?
Ah oui, ben ça c'est le premier sur le vieux NES, mais il me semble que Nintendo Power avait pas pu en parler. Parce que c'était seulement au Japon. Fait que l'équivalent japonais de Nintendo Power, il me semble que Nintendo Power c'était seulement américain. Mais je peux me tromper.
Écoute, je suis pas sûre parce qu'il y a vraiment des Nintendo Power dedans.
The Blade of Patent.
Le preview était comme coupé parce que c'est un nom qui finit plus, là. Shadow Dragon and the Blade of Light. Ah, mais là, attends un peu, là. Replica Game Box. Ouais, il y a un replica. Il donne la boîte du jeu avec la cartridge de NES dedans, mais elle fonctionne pas. C'est juste comme pour faire cute.
Juste le plastique.
Ouais.
Mais là,
Pour
mais
les
pourquoi?
collectionneurs. Pour les
Mais il n'est pas
collectionneurs.
sorti sur NES, il est sorti sur Famicom seulement.
Tu vois,
Fait que
c'est...
c'est une cassette de Famicom? Je me demande même s'il n'est pas sorti sur le disque système du Famicom qui marchait avec des petites disquettes jaunes.
Là,
Dans ce cas-ci, il faudrait que ça soit une disquette jaune.
je vais devoir me dévoiler que je suis un peu dumb, puis je sais pas comment voir la différence entre une cassette de NES et une cassette de Famicom. Je veux dire, de loin,
La Famicom,
je
c'est
suis
la
pas dumb.
moitié de la hauteur. La NES est très carrée, puis celle du Famicom est très rectangulaire.
Non, c'est une grosse
C'est
patente carrée.
littéralement la même affaire qu'il y a dedans, mais ils se sont dit, les Américains sont caves, on va mettre la cassette deux fois plus grosse.
Ouais,
Mais
mais il
c'est
y
comme...
avait un crash énorme du jeu vidéo, il fallait absolument qu'ils fassent quelque chose comme ça.
C'est comme s'ils
C'est...
faisaient un release américain pour la première fois du jeu, dans le fond, parce qu'ils ont
Ouais,
traduit tout
ok.
le manuel japonais. Ils l'ont traduit cette fois-ci. Non, t'as raison, le Nintendo Power, c'est juste un poster. Fait que c'est le manuel qu'ils ont traduit, en fait.
Ok.
Mais ouais.
Ouais,
T'achètes
c'est.
C'est très
Une
cool.
boîte. C'est
Ça...
drôle d'ouvrir une cassette de NES parce que tu vois que la chip dedans prend comme un quart. La moitié gros
C'est tout
top.
l'espace vide, ben oui.
C'est loin, ouais, c'est juste de l'air.
Mais y a pas genre. Y avait pas quelque chose avec comme. Non, je me trompe peut-être, mais comme que les cartridges de Switch pourraient être plus petites, parce que de toute façon, c'est une carte micro SD qu'il y a dedans, mais qu'à un moment donné, c'est trop facile qu'un enfant de l'aval. Fait qu'ils sont pas trop petites, là, pour pas qu'on les perde, genre.
Ouais, ça se peut.
Puis sûrement pour être capable de mettre
là, je peux comprendre. Dessus, là.
Ouais, parce qu'il fallait que tu trimbales tes micro SD, là, ça serait... Mais
tu verrais même pas c'est quel jeu dessus, ouais.
Et c'est plus
qu'un ongle. C'est pas pour ça qu'ils ont mis un goût dégueu aussi, oui, sur les... Pour éviter que les gens...
Je suis content qu'on en parle.
J'ai toujours pas osé, parce que les gens disent que c'est absolument terrible. Moi, je suis vraiment du genre à mettre ma langue dessus, mais j'ai pas osé. Parce que
t'as
ça...
pas osé, mais là, fais-le, Anne-Marie! Moi, je l'ai fait.
Mais c'est parce que, tu sais, le but, c'est que ça soit suffisamment fort pour que l'enfant le sorte de sa bouche immédiatement. T'sais, tu veux pas que le goût fasse effet quelques secondes plus tard, puis tu veux pas qu'il soit suffisamment subtil pour que l'enfant puisse passer à travers. Fait que ça a l'air que c'est absolument aberrant, mais immédiatement.
Ben, puis que ça okay, reste. Ben, moi, je peux te partager mon expérience. Moi, il y a quelqu'un qui avait une Switch, puis là, je lui mentionne cette affaire-là, puis là, il fait « Ah, c'est drôle! » Puis là, j'étais comme « Est-ce que tu m'autorises à l'essayer sur une de tes cassettes? » Puis il fait comme « Ah, sure, vas-y! » Fait que là, je pogne ça, puis là, je liche, puis je fais comme « La première fraction de seconde, tu fais comme « Ah, oh, c'est pas si pire que ça! » Puis là, une tiers de seconde plus tard, t'es comme « Ah, wesh, c'est fucking dégueulasse! »
C'est peut-être poison en plus, on devrait vraiment pas
non,
faire ça.
Non.
C'est la saveur de l'aspirine. C'est très, très amer.
OK.
Ça, c'est pas, tu vas pas comme, tu vas pas aller te passer la langue à l'eau, là. C'est juste que, c'était pas bon, cette affaire-là.
J'ai pas essayé, mais je pense que par contact, après, j'ai touché ma bouche avec mes doigts, genre, puis j'ai goûté sur mes doigts fait, par interposé, puis fait comme, OK, ça doit être vraiment fort si j'ai juste détecté ça sur mes doigts, puis j'ai juste pris la cassette avec mes doigts. Là.
Mais là, c'est pas un piment fort, là, non plus, là, on s'entend.
Non.
Mais quand tu coupes du piment fort, puis tu te frottes le nez ou la bouche.
Plus tard, j'avais retesté avec une autre, puis comme, c'est peut-être parce qu'elle était vraiment neuve, là, mais ça le fait pas tout le temps. Là.
Ah, ben là,
je pense qu'il faut les licher pour vrai.
Mais on devrait organiser une dégustation.
Mais mon amie qui s'en est rendu compte puisque j'ai vu le post récemment, en fait, elle avait les mains pleines, puis elle était après switcher le jeu, puis elle l'a juste comme mis dans sa bouche en attendant parce qu'elle avait les mains pleines, fait que c'était comme zéro voulu.
Wow.
Fait que c'était une grosse mauvaise surprise. Pauvre cocotte.
Ah, ben j'aime ça comme histoire, c'est parfait.
Fait que là, si j'ai brassé une IPA maison, au lieu de mettre du houblon sur le dessus, vous pourriez faire fermenter le restant avec des cassettes de Switch sur le dessus. Ça serait similaire.
On est vraiment dans un podcast de On a juste une vie, hein? Dégustation de cassettes de Switch.
Ah oui.
C'est comme saupoudré de cassettes de Switch. Écrasé au mortier et pilon.
Ouais. Ça doit faire une bonne vinaigrette.
Mais l'amertume, c'est tellement le goût que comme l'entièreté des civilisations humaines ont passé toute leur histoire à essayer d'éliminer. Là. Comme tous nos légumes n'ont pas d'amertume juste parce qu'on a tout le temps sélectionné la tomate la plus sucrée avec la tomate la plus sucrée avec la tomate la plus sucrée, puis maintenant ils ont presque pas d'amertume, puis pareil avec toutes les autres légumes. C'est très drôle qu'il y ait des gastronomes maintenant qui redécouvrent l'amertume quand il y a des milliers d'années de travail acharné pour essayer de l'éliminer.
Il n'est encore quand même pas pire dans le pamplemousse, mais c'est vrai qu'un pamplemousse, on met souvent du sucre sur le dessus.
Souvent, les gens, ils aiment pas ça. Moi, j'aime beaucoup les pamplemousses. Ouais. Puis les gens me disent, genre, t'aimes ça du pamplemousse?
De temps en temps.
Est-ce que les gens, c'est des chats? Ton imitation, elle faisait croire.
Je saute autour de moi. Oui,
tes chats te jugent quand tu manges des pamplemousses.
C'est sûr qu'elles ne toucheraient pas. C'est sûr qu'elles ne toucheraient pas.
Non, je crois. Ok, là, je voudrais retourner.
C'est sûr qu'elle ne toucherait pas, mais là, branche-toi. Là, si tu es amer ou si c'est sûr?
Oh.
L'un n'exclut pas l'autre. Ça, c'est malheureusement un apprentissage qu'il faut que tu fasses. L'amertume, c'est associé avec les bases, puis le surette, c'est associé avec les acides, mais ben, en fait, pas toujours vrai. Là aussi, c'est un spectre. Tu peux retrouver l'un dans l'autre, puis l'autre dans l'un.
Tout est dans tout.
Sauf que ça fait pas de sens, par exemple, parce que si le pamplemousse il est à la fois basique, il peut pas être à la fois acide aussi.
Ben, l'idée, c'est qu'il fallait se rendre compte que c'est associé, mais que c'est pas la vérité. L'amertume, elle peut se retrouver partout, alors que le surette, oui, c'est effectivement plus une propriété des affaires acides, mais des fois, tu peux trouver quelque chose qui goûte surette qui est pas si acide que ça.
Interesting.
Un vrai podcast, on a juste une vie.
Ah ouais.
Je voulais retourner à mon jeu de Atari pour pas avoir trop monopolisé la conversation. Là, non, parce que je voudrais pas l'abîmer. Déjà, la console, j'ai dû gosser avec les boutons comme on dirait qu'elle dormait. Comme à force de peser sur les boutons, ils ont fini par tous se réveiller, mais au début, je pensais qu'il y avait une couple de trucs qui marchaient plus.
Il y avait de la... De l'oxydation.
Elle avait juste besoin de se faire réchauffer un petit peu.
Non, il faut que tu la liches un peu. Là. C'est comme, il faut que tu ouvres l'intérieur et tu liches tous les petits contacts. Là. Ça, ok, j'arrête.
Anyway, j'ai joué à un de mes jeux préférés sur Atari 2600 cette semaine. Ça s'appelle Yar's Revenge. Et dans le livre d'instruction, il y a une bande dessinée qui t'explique l'histoire de Yar's Revenge.
Oh.
C'est que il y a une navette spatiale qui est allée dans l'espace, puis là, dedans, sans faire exprès, il y a une mouche qui s'est retrouvée. Puis là, la navette spatiale, je pense, elle a été perdue, puis elle a subi des radiations d'une étoile, puis la mouche, elle s'est transformée en un genre de mouche extraterrestre, puis elle a fondé une civilisation sur une autre planète. Puis là, il y a comme une grosse civilisation de mouches qui s'appelle les Yar. Puis à un moment donné, ils se font attaquer par une espèce de... Je suis sûr que c'est un genre de robot ou c'est une affaire semi-organique qui s'appelle le Cotil. Puis là, ils doivent se défendre du Cotil. Fait que là, ils font un espèce de gros robot Yar vaisseau pour aller tirer sur le Cotil. Sauf qu'ils n'ont pas le temps de l'armer correctement. Ils sont obligés d'utiliser un canon sur la planète pour tirer le Cotil, mais le système de guidage est obligé de viser sur le vaisseau. Et là, quand tu joues au jeu, c'est littéralement ça.
J'espère bien s'ils ont écrit une BD pour le fucking jeu.
Mais c'est parce que c'est un jeu de Atari. Genre, sur Atari, tu t'attends d'avoir comme Pac-Man pas beau, puis comme Asteroids, puis comme tout pas beau.
Oui.
Mais ce jeu-là, il est comme un peu complexe avec des mécaniques. OK, t'as juste à peu près 4 cossins à l'écran. Mais ce que tu dois faire, c'est... tu sais, dans Space Invaders, tu as des petits boucliers en bas que tu peux percer pour tirer les aliens. Ben là, tu dois faire le contraire. C'est le Cotil qui a un bouclier que tu dois percer d'abord. Puis si tu approches ton vaisseau mouche Yar du bouclier, puis tu pousses dessus, ça va faire comme... Ça va commencer à le gruger comme si tu le manges. C'est super satisfaisant d'aller comme bouffer le shield avec tes dents.
Je suis allé chercher une image du pour avoir un visuel un petit peu. Le vaisseau ressemble à une mouche. C'est vraiment fun.
Oui, c'est bien fait.
Je me demande si c'est pas genre comme le designer qui a commencé son jeu, puis là il a fait « Bon, je vais faire une navette. Ah, oh, ça ressemble à une mouche. Ah, oh, on va dire que c'est une mouche. » Il fait, OK, là, je vais faire la base ennemie, là. Oh, ça a l'air de... Oh, on va dire que c'est la civilisation perdue des mouches, puis le Cotil, puis le whatever bullshit. Ça sonne un peu comme ça. Ça sonne comme moi qui faisais mon atelier de Bitsy l'autre fois, qui était comme, ah, je vais dessiner un bébé. Oh, c'est trop compliqué. Ça a l'air d'une fleur. Bon, ben, j'ai dessiné une fleur, finalement, fait que tu vas aller chercher une fleur au lieu d'aller chercher le bébé.
Ouais, c'est, ben,
ça sonne comme de la bullshit de designer.
Là, sur Atari, là, t'as tellement pas beaucoup de pixels. Et il y a pas mal de suites. Je pense que sur le Super Nerf Web, à un moment donné, on pouvait jouer à genre Yar's Revenge, Revenge.
Oui, c'était The Revenge of Yar's Revenge.
Wow.
qui est comme une parodie où est-ce que t'as plein de sprites qui se garochent sur toi puis tu les tires. Mais, ok, je vais juste finir ma petite description du jeu. T'as ton petit vaisseau, ok, t'essayes de percer le bouclier, puis après ça, tu veux tirer le cotil, mais pendant ce temps-là, tu te fais suivre par un missile à tête chercheuse qui bouge relativement lentement, une chance. Puis le jeu, ils ont placé une espèce de zone de non-agression en plein milieu de l'écran, fait que quand ça va trop mal, tu peux aller te cacher dans la zone, puis le missile, même s'il te touche, il peut pas te faire mal, mais t'as plus le droit de tirer. Fait que comme tu peux toi-même peser ton risque puis ta récompense en faisant comme « Ok, là, si j'ai besoin de me concentrer, je vais aller dans la zone de non-agression. » La raison pourquoi tu veux faire ça, c'est parce que le cotil, de temps en temps, il se change en spirale de feu, puis il fait revoler la spirale de feu vers toi, puis elle touche partout. Fait que quand tu veux être sûr de le dodger sans penser au missile, tu peux aller te cacher dans la zone sécuritaire puis essayer d'éviter la sphère de feu. Si tu veux déclencher ton canon pour tuer le cotil, pour passer au prochain tableau, faut soit que tu ailles y toucher avec ton vaisseau, mais là, il y a des chances qu'il se transforme en spirale de feu. Fait que genre, s'il vient de le faire, c'est le moment parce qu'il va pas le faire deux fois d'affilée, genre après une seconde d'intervalle. Fait que là, il a fait sa spirale de feu et comme, ok, je vais aller toucher le cotil. Ou tu vas grignoter un bout de bouclier, puis ça, c'est la commande pour activer le canon. Quand t'es rendu avec ton canon, ben là, tu dois tirer sur le cotil avec le missile à tête chercheuse pas dans les jambes. Le missile, il tire sur toi, fait qu'il va falloir que tu t'enlèves. Puis il faut que t'aies fait un trou dans le bouclier pour pogner le cotil. C'est super excitant.
Non, mais
puis tous les tableaux sont pareils, sauf que ça va plus vite.
Oui, ben c'est un jeu d'Atari. On s'entend-tu que c'est comme probablement un des deux jeux qui a une mécanique de grignotage. Il y a Yars Revenge puis Burrito Bison. Pour ceux qui connaissent, Burrito Bison, il fallait grignoter le gâteau entre les portes. Ça, c'était l'addition qu'il avait faite dans le 2, je pense. Là, t'avais des power-ups de grignotage. Puis c'était drôle parce que le jeu était en français québécois. Fait que quand t'achetais le power-up de grignotage de gâteau, c'était comme grignotage de gâteau. Puis c'était comme, oh!
Ah oui, excellent choix de mots. Au Québec.
Ben oui, c'est nos amis de Montréal.
C'est les studios Bite Jutters, hein, je pense.
Ou Bite Juicy Beast, oui.
Ben c'est ça, c'est cool un jeu d'Atari mais avec des mécaniques comme pas full complexe, mais je veux dire il y a des éléments là. C'est pas juste comme t'as un vaisseau, tu tires des patentes.
Mais t'as-tu rejoué toi E.T.? Parce que je sais que tout le monde dit que c'est le pire jeu de tous les temps.
Ben mais c'est comme, pas vrai, joué... mais on l'a pas.
Ah, l'a pas. Mais je l'ai joué en émulateur l'autre fois puis j'étais comme c'est donc bien compliqué ce petit jeu-là. C'est comme, tu sais, ok, c'était peut-être trop compliqué pour les gens de l'époque, mais aujourd'hui c'est comme, ah ok, c'est un jeu, il y a différents niveaux, t'as de l'investigation, ben, là, investigation entre guillemets, tu peux tomber dans un trou, puis là t'as des affaires à aller chercher, puis c'est comme, c'est je sais que tout le monde dit que c'est de la merde, que c'est comme l'histoire se souvient de ce jeu-là comme étant de la merde, mais ce jeu-là en fait c'était comme un jeu trop avant-gardiste.
Un peu, ouais.
Bah, c'est surtout l'idée, un peu random, que... non? Genre, il n'y a pas un endroit où, genre, t'as des trous, puis normalement, tu veux pas tomber dans les trous, sauf un trou où, soit tu veux tomber dedans, puis c'est comme... Ça fait chier tout le monde, là.
Je pense que dans ce jeu-là, tu veux tomber dans tous les trous pour voir qu'est-ce qu'il y a, sauf que c'est complètement l'inverse de n'importe quel jeu.
OK, le UX, c'était pas génial. Mais une fois que t'as
Mario n'était pas sorti à l'époque, fait que les trous, on n'avait pas la même relation avec les trous. Quand tu jouais genre à Pitfall, tu tombais dans un trou, tu tombais dans les cavernes en dessous, tu pouvais continuer de jouer. Genre, c'est pas la même époque. Des fois, les trous, ça allait. Des fois, non. Ça dépendait du jeu. Mais depuis Mario, un trou, ça tue. Je pense qu'on n'était pas rendu là à l'époque. Mm.
Le monde n'était pas prêt aux trous qui tuent pas. Et aux mécaniques de RPG, il y a comme de l'XP ou des power-up là-dedans dans E.T. C'est comme... je l'ai rejoué. Il est sur Internet Archive, genre, je pense. Okay. Où c'est que j'ai joué? J'ai joué ça comme récemment.
C'est pas un si mauvais jeu. L'affaire, comme tu dis, c'est avant-gardiste. C'est un peu cryptique. Et surtout, c'est pas facile à ramasser par des enfants.
Ben non, c'est ça. Là.
Et puis, il y a une série de documentaires sur Netflix à propos des jeux vidéo qui s'appelle quelque chose du genre Highscore, qui est narré par Charles Martinet, la voix de Mario. Et ils sont absolument excellents.
Oh ouais.
J'ai écouté ça et j'ai appris des affaires. Moi qui écoute plein de patentes et qui lis plein d'entrevues sur les jeux rétro, j'ai encore appris des affaires en écoutant ça. Ils sont allés faire des nouvelles entrevues originales avec le gars qui a designé E.T., le gars qui a créé des patchs électroniques pour Missile Command. Ils ont parlé avec Hirokazu Iptanaka, qui avait composé plein de tunes pour le NES puis pour l'arcade, puis qui avait fait des bruitages. C'est lui qui avait fait les soundtracks de Super Mario Land, Metroid, Kid Icarus. Ils parlent même pas de ça en plus, ils parlent juste de sa carrière de bruiteur. C'est excellent. Puis justement, le gars de E.T., il dit qu'il est allé parler personnellement à Steven Spielberg, qui a dit « Ah, fais juste quelque chose comme Pac-Man. » Puis il a dit « Ben, tu sais, je trouve que pour un film aussi cool que E.T., aussi différent, ça il me semble que ça mérite quelque chose de plus. » Il a pitché comme une idée, puis il a fait comme « Ben, ok, essaye-le. » Et ça a donné ça.
Mais tu sais, il y a tout un espèce de... genre
C'est les attentes du public, là.
Exactement. Des fois, tu sors juste pas le bon jeu au bon moment.
C'est pas le pire jeu de la Terre. Il a juste causé des conséquences un
Ils peu extrêmes. Ils en ont juste imprimé trop de cassettes.
Il y a clairement
Ils en ont imprimé beaucoup, ouais.
Là, ben là, on est un peu rendu à la fin de l'émission, au mot de la fin. Est-ce que... Moi, j'avais un mot... Ben, en fait, ce que je voulais surtout, c'était utiliser les mots de la fin... parce qu'il y avait Ohokum là, qu'on avait mis sa feuille de route.
Allez-y. Bon, ben.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais nous dire à propos de Ohokum qui se ferait comme un petit mot de la fin en une minute?
on peut en reparler plus tard une autre fois éventuellement. J'ai déjà beaucoup parlé, mais non, Ohokum, c'est un de mes jeux préférés. C'est pour ça que je l'avais noté.
Ah, nice.
Mais c'est quoi? Moi, je sais pas c'est quoi du tout.
C'était un jeu qui était sorti que sur PS4, je pense, si je me trompe pas. D'où le fait qu'il y ait pas beaucoup de gens qui le connaissent, parce que c'est quand même restreint. Puis c'est un jeu que je trouve très intéressant, parce que c'est très graphique. Je crois que c'est un développeur qui a fait ça qui a fait un genre de brainstorm avec un artiste qui se sont dit ce serait cool de faire un jeu genre avec ton style, puis c'est un jeu qui est vraiment genre art driven là, que c'est comme le processus créatif, c'est beaucoup plus proche d'un dessin animé que d'un jeu, mais sans que ce soit un truc c'est pas un visual novel non plus, tu sais, c'est pas il y a aucun texte et tu comprend l'histoire, le scénario, entre guillemets, qui est le gameplay, du coup, en même temps que tu joues. Puis t'as un serpent coloré, c'est très beau. Puis tu te balades de monde en monde et t'as des petites scénettes avec des petits univers, des petits personnages qui font des petites affaires. Puis il y a beaucoup de gens qui détestent ce jeu ou comprennent pas ce jeu ou comprennent pas l'intérêt du jeu où quand je dis des fois que c'est un de mes jeux préférés, il y a des gens qui me regardent avec des yeux bizarres comme genre mais c'est le jeu le plus plate de l'univers, je suis à où non.
On dirait une description de Nobby Nobby Boy.
On dirait l'histoire de E.T. Les gens n'étaient pas prêts.
Peut-être que les gens sont pas prêts pour Ohokum. Je vous invite à regarder si vous avez l'occasion de regarder Ohokum. J'espère qu'il y aura une suite ou quelque chose d'autre du genre un jour, mais je pense pas, parce que c'est le genre de jeu événement là que c'est pas fait pour avoir plusieurs productions
Ohokum, moi j'avais été hypnotisé parce que le jeu avait été en démo dans un démo night, puis il y avait plein de stations, puis le jeu était comme un peu abandonné, fait que moi j'étais comme resté là super longtemps à jouer, puis je pense qu'il était un peu brisé, fait que c'est sûr que mais je suis resté tellement longtemps hypnotisé à essayer des affaires puis à me promener partout, puis ça c'est venu chercher quelque chose durant cette soirée-là. Bon, j'avais peut-être un peu bu là,
La bande son est excellente. C'est...
Oui.
Je l'écoute régulièrement. C'est
faudrait
fantastique.
Faudrait que je retrouve ça.
Oui, excusez, j'essaie juste de...
Non, vas-y.
Une seconde pour interjecter. En ce moment, il est en vente sur le PlayStation Store à 5$. Fait que moi, je vais aller chercher, c'est clair.
Bon.
Clairement. Puis c'est pas... Pour le coup, c'est pas un jeu long ni un jeu où il y a besoin de skills, là. C'est juste... tu te balades, tu regardes les choses et puis tu fais des interactions. Il se produit des choses. Tu vas avoir un univers tout noir, par exemple, avec des espèces de... On dirait un petit peu des lampadaires. Puis si tu touches avec, tu sais, un serpent, tu peux te balader un peu partout. Si tu touches le bout de la lampe, par exemple, bah, ça va s'éclairer. Puis ça va comme révéler des étoiles. Et puis tu vas aller dans les étoiles. Et puis tu vas voir que quand tu touches les étoiles, ça fait des constellations. Que des choses comme ça. Puis tu te balades, tu regardes des choses. Puis si t'es curieux, c'est ça, tu vas faire des suites d'événements qui vont aboutir à quelque chose. Puis tu vas comme comprendre une mécanique et comme ça va devenir un espèce de où est Charlie là, où tu vas essayer de au début tu comprends vraiment pas qu'est-ce que tu fais là, puis à la fin tu vas comprendre, tu vas savoir ce que tu cherches puis le trouver, puis c'est ça, le jeu a une fin, donc il est bien le fun.
Ah, ça a l'air fantastique, ça a l'air totalement mon genre. C'est aussi disponible,
c'est très détendant.
PS Vita.
J'avais vraiment beaucoup aimé ça.
C'est un bon jeu de dimanche après-midi.
Excellent mot de la fin. Excellent mot de la fin. Je sais pas, vous, avez-vous des choses? Moi, j'ai un petit truc. C'est pas vraiment un jeu. Ben, c'est comme... Je suis tombé là-dedans depuis la fin de semaine. Ça s'appelle Orca. C'est pour faire de la musique. C'est un générateur de musique MIDI. Oh, Blob, je pense que t'aimerais peut-être ça, en fait.
Ah,
C'est comme un playground, c'est comme Minecraft, mais tu mets des symboles, puis là, chaque lettre de l'alphabet a une fonction particulière, puis là, tu assembles les symboles. C'est comme un peu... C'est comme faire de la musique avec un puzzle game. C'est, je vais en parler plus en détail la prochaine fois quand je vais avoir trouvé une manière de l'expliquer qui n'est pas comme c'est je sais pas c'est quoi, c'est fucking weird. C'est fait par Devin qui fait que des applications ésotériques pour faire de la musique bizarre. Et j'ai passé toute ma fin de semaine à faire de la musique. C'est malade. Ça s'appelle Orca. Cherchez Orca Musique, parce que si vous cherchez Orca, vous allez juste avoir des dauphins.
Ouais, ORCE.
Des.
Okay.
Oui, oui. Pas des dauphins, des. Comment? Des.
Des cétacés.
Ouais.
Voyons.
J'arrête de parler parce que c'est assez.
On dit juste des orques, ça se peut-tu?
Ah ouais?
Je pense que oui.
Ah. Ça fait drôle Ça fait drôle après avoir. Ben, je sais pas, moi, vu des films de Lord of the Rings. Pas les mêmes orques.
Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment orques qui eu. Ouais.
Ouais. Des rocales. Oui, des épaulards, ouais.
Ouais.
Des Willy.
Des Willy.
Mon ami. Blob, t'as-tu un mot de la fin?
Je me rappelle pas du titre dont vous venez de parler parce qu'il est comme un peu weird, compliqué, mais.
Ho ho
ouais, boom. Je pense que j'aimerais ça aller l'acheter. Ça me ressemble aussi.
Ouais, H-O-H-O-K-U-M.
J'essaie désespérément de récupérer mon compte PlayStation parce que j'ai aucune idée c'est quoi mon nom puis mon mot de passe. Je veux l'acheter.
Ça va pas bien.
Ouais,
j'irai checker Orca, ça a l'air vraiment mon style de truc. Ça m'intéresse.
C'est très très obscur. En tout cas, on en rejasera après. C'est pas facile d'approche. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, puis ça fait 2 ans que je suis comme impossible que je joue avec cette affaire-là. C'est bien trop compliqué, c'est bien trop weird. Puis là, de ma année, je suis comme par hasard tombé sur un tutoriel. J'ai écouté, puis j'ai dit « Ah, OK, tu comprends. » Une fois qu'il y a quelqu'un qui t'explique, c'est pas si pire que ça. Je comprends, ça a l'air vraiment intéressant. Puis là, je l'ai essayé, puis je suis comme « Oh, c'est malade. »
Fait qu'il aurait fallu un livret.
Ouais, c'est ça.
Ben, comme, il y a des instructions, là, parce que dans l'application, il y a très peu d'instructions. Sur son site web, il y a un peu d'instructions, mais c'est très minimaliste. Le gars, il est vraiment très minimaliste, fait que c'est comme un peu de débrouille-toi. Mais comme il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos tutorials puis qui t'expliquent genre OK, quand tu mets telle lettre avec telle lettre, ça fait ça, regarde. Ah, oh, puis là tu mets ça, puis là ça fait un son, puis t'es comme oh shit. En tout cas, j'arrête de parler. Anne-Marie, t'avais-tu un mot de la fin?
Oui. Mon mot de la fin, ça va être un podcast. C'est Camille, l'autre jour, qui nous a parlé du podcast Lore Party sur le Discord. Puis j'ai décidé d'aller voir. Elle disait c'est le fun, un podcast aux gens qui creusent tellement profond dans le lore qu'ils vont juste comme creuser trop profond puis passer des heures à avoir des théories. Puis justement, un peu comme on parlait de genre de sortir des théories qui étaient peut-être même pas.
Picross.
Ah ouais. Ou juste comme aller spinner des théories qui étaient peut-être même pas dans la tête de l'auteur, comme on parlait avec Céleste, là, de juste comme aller vraiment trop profond puis suranalyser comme le lore de, d'un jeu. Fait que j'ai écouté tous leurs épisodes sur la série Mass Effect. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué à Mass Effect, puis ça m'a fait comme un peu comme me replonger dedans, là, parce que ça fait quand même vraiment longtemps, là, mais c'est super intéressant de voir des gens qui discutent justement comme le rôle des personnages, puis le rôle de l'humanité, puis le rôle de la technologie dans l'émancipation de l'humanité, puis juste comme des thématiques puis des concepts d'aller deep, genre d'aller profond dedans. Fait que Lore Party, je trouvais ça bien belle fun à écouter. C'est des épisodes de juste une heure en plus, donc c'est pas trop. Moi j'ai l'habitude des épisodes de jeux vidéo qui rentrent dans la profondeur qui durent comme 3 heures de temps, tu sais. J'étais comme, ok, crime, c'est bite size. Pour moi, une heure, là, c'est un podcast bite size.
c'est pas ça, on a juste une vie, ça.
Ben, on dure juste 2 heures, mais on a plusieurs sujets, tu sais. En tout cas, bref, si ça vous intéresse, ils ont d'autres jeux, là, en fait, là, j'ai déjà téléchargé tous les épisodes sur The Witcher, fait que je vais sûrement me taper ça bientôt. Il y a plein d'autres jeux. Il y a des épisodes sur Smash Bros. Aussi, ça, je suis vraiment curieuse de voir le lore derrière Smash Bros. Puis qu'est-ce qu'on peut en extrapoler.
Ah, moi, j'ai des théories que je connais. Mm-hmm. On en parlera un jour.
Ouais.
Surtout sur le dernier.
Oh.
Eh bien, si vous voulez être sûr de ne pas manquer les théories quand Blob va en parler, ça peut être le bon moment pour que je vous parle de comment vous abonner au podcast. Hein? Oui. Hein? Quelle transition smooth, mes amis. Ouais, on est sur Apple Podcasts, on est sur YouTube et sur Twitch. Vous pouvez trouver tous les liens sur notre site web. On a justunevie.ca. Profitez-en de donner des pouces et des étoiles, parce que ça devrait être cool. Vous pouvez aussi nous envoyer des emails à info@onajusteunevie.ca. Si vous voulez nous jaser, vous pouvez rejoindre notre groupe Discord, dont je mets le lien dans le chat en ce moment, et venir nous jaser et nous écrire des blagues. Ces temps-ci, il y a. Voyons, j'oublie son nom. En tout cas, on a quelqu'un qui nous raconte son aventure avec le pape. Et la conquête d'Israël.
Ah, c'est June qui joue à Crusader Kings 3, donc c'est toujours plein de shenanigans.
June joue
aussi à... C'est quoi l'espèce de simulation de pays, là? Nation State?
Ah oui!
Je pense que c'est Nation State, qui est comme un browser game où tu crées une nation puis tu gères ta nation toi-même en allant dans la direction que tu souhaites.
Nation State? Transior, il joue aussi, puis il vient d'écrire dans le chat Nation State.
Ouais.
Ils ont fait des civilisations complètement horribles.
Fait que ça c'est comme quelqu'un qui est pas dans le podcast mais qui fait son propre podcast puis qui nous raconte son gaming dans le chat. Fait que pour avoir ça, ce contenu exclusif, il faut être dans le groupe de On a juste une vie. Mm-hmm. Vous avez pas le choix. Et c'est ça, c'est ce qui conclut cette émission délicieuse de On a juste une vie. Merci beaucoup à Leslie d'être venue nous voir.
Merci de m'avoir reçu. Mais oui.
Tu reviendras. Pas, idéalement, avant 4 ans.
Ouais,
peut-être
ouais,
comme oui. L'année prochaine ou avant. On va essayer d'être plus assidu.
Ouais.
Je vais essayer d'y penser.
Oui, pareil. Je pense que c'est bon. On a des bons setups 2020 de faire des podcasts. Là, je pense que
Puis, je remarque que l'électricité a survécu.
Ah, c'est ça.
Moi, je pense que c'est un signe.
Je me suis améliorée.
C'est un signe. Ben là, comme si c'était de ta faute.
C'est pas de ma faute.
Yeah, merci Leslie. Merci. Merci à Anne-Marie et Blob d'avoir été avec moi aussi ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie.
Avec enthousiasme.
Avec enthousiasme, ok.
C'est donc le soundcheck où je parle avec enthousiasme et je donne la parole à Anne-Marie.
Allô, je parle avec enthousiasme.
Et Blob.
Bonjour.
Et Leslie.
Bonjour.
Qu'est-ce que t'as dit, Leslie?
J'ai dit bonjour, puis après j'ai beaucoup bougé dans ma chaise.
J'ai l'impression que le début du bonjour avait été escamoté peut-être par le noise
attention de Discord. Ça a sonné comme pleure.
Je pensais que c'était chez moi que ça avait coupé.
Okay.
Je parle avec énergie. Pleure! Comme... Oh, ok, c'est random.
Ouais, c'est random, c'est mon style, c'est tout va bien.
Je comprends pas la joke des voleurs. C'est quoi le pluriel d'un voleur? Des valises. Hein?
Il dévalise. Des valises.
Oh, ok.
Un voleur des valises. Okay. I get it now. D'accord.
Ben, c'est aussi brillant que ta joke de la fourmi micro-onde.
Oh, ben là, ma joke de fourmi était parfaite.
J'arrive pas à croire qu'il y a vraiment une page Wikipédia pour les.
Ouais, moi aussi.
Pour cette joke-là. J'allais voir après les pages Wikipédia que vous avez posté des jokes poches en général.
Ah ouais.
Je suis restée un peu trop de temps sur cette page-là. What?